Bonsoir, on va commencer. Donc, ce soir, l'association Rêve en Poche, donc le réseau Veille-Sommeil en Poitou-Charentes et l'espace Mondes-France vous propose donc une conférence sur la sieste. Donc, je vois que vous êtes venus. Donc, il y a beaucoup de gens intéressés. Et donc, gentiment, donc, le professeur Joël Pacro donc, va nous faire sa présentation. Et ensuite, bon, il y aura la partie où vous pourrez poser vos questions. Donc, le partenariat entre l'association et Rêve en Poche et l'espace Mondes-France donc, existe déjà depuis 2 ans au moins, et donc on se retrouve 2 fois par an régulièrement. Donc là, c'est la première soirée de 2014. Voilà, je laisse toujours tout de suite la parole à Monsieur Pacro.
Merci beaucoup, et puis je suis toujours très heureux de venir ici pour vous présenter une problématique sommeil, car l'objectif de Rêve en Poche, c'est de faire de l'éducation, de l'information auprès du grand public sur les problèmes de sommeil et le comportement adapté à un bon sommeil, et puis aussi sur traiter des pathologies du sommeil. On fait aussi de la formation médicale. Et donc moi, je m'occupe du centre de sommeil au CHU de Poitiers, qu'on a créé avec mon collègue Jean-Claude Meurice, le pneumologue, et Jean-Philippe Nau, le neurologue, en 1988. Et donc depuis, je me suis complètement investi dans le cadre du sommeil. Je ne fais pas que ça, bien sûr, mais au niveau national aussi, on a développer, essayer de faire prendre conscience de l'importance de respecter son sommeil, parce qu'autrement, on a peut-être parfois trop envie de dormir et ça peut conduire à une sieste. Et donc là, le topo que je vais vous faire aujourd'hui, c'est sur la sieste. Alors, pour qui, pourquoi, comment, ça va peut-être être un peu dans le désordre par rapport au titre, mais on arrivera à la fin à avoir tout évoqué. Et puis, à la fin ou pendant, si vous voulez poser des questions, eh bien, vous pouvez me poser des questions, il suffit de lever la main, ça peut être très interactif. Mais en fait, j'espère qu'il y a pas mal de réponses déjà dans le questionnaire, dans le topo. Tout d'abord, une sorte de définition, la sieste c'est quoi ? Eh bien, vous voyez, c'est la sixième heure, c'est-à-dire midi pour les Romains, sixième heure du jour, donc ça commence à 6h du matin, le jour c'est l'aube, et puis 6h après il est midi, et c'est l'heure de la siesta pour les Espagnols et pour nous aussi, et c'est un petit repos, alors petit somme que l'on fait après le repas de midi ou dans la journée. Alors initialement c'était défini comme étant plutôt après le repas. Alors effectivement, dans le sens commun, c'est plutôt la prise de sommeil après le repas, la sieste. Pour les médecins ou pour les gens qui s'intéressent au sommeil, finalement, la sieste a été définie comme une prise de sommeil dans la journée, en dehors de l'épisode majeur du sommeil. Vous avez un épisode majeur de sommeil qui peut être la nuit. Généralement, c'est la nuit, c'est plutôt recommandé. Ou le jour, pour les gens qui dorment, qui travaillent la nuit, ça peut être le jour. Et la sieste, c'est finalement une prise de sommeil en dehors de cette période-là. Mais c'est une prise de sommeil, finalement, parfois sans sommeil. Vous verrez, il y a différentes siestes. Et ça aboutit à un moment de relaxation et de détente. Et on peut, en l'absence de sommeil, être très détendu si on fait une sieste, ou au moins si on fait cette période de repos, de relaxation. Et ça existe partout, et dans toutes les cultures, hein, en particulier dans les cultures asiatiques, on voit très facilement les gens dormir, prendre du sommeil, faire des petites siestes très brèves, n'importe quel moment de la journée. Et puis les animaux font la sieste, vous voyez ici, il y a énormément de moyens pour voir des animaux dormir. Alors il y a différents noms, hein, la ronflette, le roupillon, le sommeil, l'assoupissement, le petit somme, et mon grand-père lui parlait de Marienne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent encore de la Marienne, ici c'est un nom local, je n'ai jamais retrouvé sur internet. Alors je n'ai pas tapé le mot Marienne, j'aurais dû, mais voilà, ça dans la région on parle de Marienne. Et c'est génétiquement programmé, on est génétiquement programmé pour faire la sieste, tout simplement parce qu'on est génétiquement programmé pour dormir. Notre rythme veille-sommeil, je vous en évoquais d'autres mots, eh bien c'est quelque chose de caractéristique de chacun d'entre nous. On a des gènes qui nous règlent notre horloge, on va en parler, et elles règlent aussi lors de notre sieste qui normalement se fait en début d'après-midi, et ça c'est lié à des éléments qu'on va voir. Et puis, entre 12 et 15 heures, naturellement, on a une tendance à être un peu plus fatigué et puis la tension diminue. Alors, c'est pas l'heure. Normalement, à cette heure-là, vous n'avez pas envie de faire la sieste. Vous allez commencer à avoir envie de dormir, c'est-à-dire l'épisode majeur de sommeil pour la nuit. Et puis, il y a plusieurs types de siestes. Alors ça, c'est des notions un peu modernes, en fait, hein. Il faut évoluer un petit peu. Avant, on parlait de la sieste comme un somme de longue durée, mais maintenant, il y a la micro-sieste ou sieste flash qui va durer moins de 10 minutes. Alors, ce n'est pas une définition, hein. Ça peut durer 12 minutes ou 3 minutes ou 2 minutes. C'est très rapide, en tout cas. 30 secondes, c'est à vous de décider. Si on dit 5 secondes, on parlera de nano-sieste, peut-être, je ne sais pas. Quelque chose de très bref. On va parler de sieste courte qui va durer 10 à 20 minutes, hein, pas trop, quelque chose qui va être, on va l'expliquer pourquoi ça doit être court, mais pas plus de 20 ou pas plus de 30 minutes, en tout cas c'est certain, hein, mais le mieux c'est moins de 20. Et puis la sieste longue, où là vous allez pouvoir vous reposer sur une période de longue durée, sieste royale, où j'ai pu voir tout récemment mon ami Damien Léger, qui est le professeur à l'Hôtel Dieu à Paris, parler de somme. Alors que le somme, généralement, avant, c'était plutôt... Alors, ce n'est pas une somme financière, hein, c'est une somme de sommeil. C'est le sommeil. Et là, c'est une longue durée et ça permet de récupérer plus précisément d'un manque de sommeil. Alors, on pourra parler, et ça, c'est un mot que j'ai créé, finalement, en faisant le topo pour vous, parce que je regarde un petit peu... D'un somnicament, c'est la sieste. Donc, s'il y a un somnicament, c'est qu'il y a probablement une somnothérapie. Donc, vous allez pouvoir utiliser la somnothérapie, c'est-à-dire un traitement à partir du sommeil. Et on l'utilise, en fait, en médecine pour certaines pathologies comme la narcolepsie ou les hypersomnies idiopathiques. Ce sont des gens qui ont toujours envie de dormir. Et donc, on leur conseille de faire des siestes, non pas involontaires, mais à des heures bien précises. On fait une somnothérapie, en fait. Et donc le besoin de dormir, en général, c'est en début d'après-midi, c'est naturel. Et puis parfois, ça devient excessif. Et alors là, c'est la somnolence pathologique. Donc normalement, dans la journée, vous devez pouvoir résister à l'endormissement, y compris en début d'après-midi. Ça peut être dur pour certains, surtout si on en manque de sommeil. Mais la somnolence pathologique, c'est la somnolence à laquelle on ne peut pas trop résister, quoi. Ça devient extrêmement difficile. Une somnolence de début d'après-midi, dans des conditions normales, si on ne manque pas de sommeil, on peut y résister. En début d'après-midi, parfois, ça fait du bien de dormir. Hein. Mais si on dort de trop, ça peut contribuer à entretenir une insomnie. Si vous dormez dans la journée, on va revoir ça, ça peut entraîner une insomnie. Et si on a trop besoin de sommeil, eh bien, on doit s'interroger sur son rythme de vie. On met en avant l'intérêt de la sieste dans les sociétés qui ne dorment jamais. Et on peut se demander effectivement si l'intérêt de la sieste et ce renouveau, ce regain en quelque sorte du besoin de sieste qu'on nous demande, hein, vous voyez, un topo sur la sieste, eh bien, est-ce que ce n'est pas là le reflet tout simplement de la dette de sommeil chronique de notre société occidentale et même dans le monde entier, en fait, probablement puisque ce manque de sommeil va conduire à un sommeil excessif dans la journée, une tendance à s'endormir pour compenser le manque de sommeil de la journée. Et donc le besoin de sieste revient alors que normalement, peut-être on a moins besoin que ce qu'on pense si on avait un sommeil de quantité satisfaisante. Il est vrai que si on remonte au début du siècle, même pas, il y a quelques 20, 30, 40 ans, en tout cas chez les agriculteurs, les gens se levaient tôt, avaient un travail au champ et ensuite faisaient donc une sieste en début d'après-midi. Ça faisait partie de cette normalité du rythme de vie. Et donc on va voir pourquoi cette sieste arrive en début d'après-midi. Parce que des rythmes nous sont imposés. Nous vivons un rythme de 24 heures qui nous est imposé par simplement le fait qu'il y a des planètes, il y a un univers, il y a des planètes, il y a le soleil, il y a des planètes qui tournent autour du soleil, et puis nous on est là, on a cette petite terre ici, et cette terre qui tourne sur elle-même en 24 heures. Et nous on est là, ici, quelque part par là, tout petit, mais on est quand même dans cet univers et dans cette rotation de la Terre. Donc il y a un rythme de la Terre sur elle-même, 24 heures, et un rythme annuel ou rythme circannuel qui va entraîner les saisons, l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Et en ce moment, vous voyez, les jours allongent et vous allez vous sentir de mieux en mieux. C'est rare les gens qui se sentent de moins en moins bien quand les jours allongent. Les gens se sentent de moins en moins bien, en général, à l'automne, quand les jours raccourcissent. Donc ce besoin de lumière est intéressant, mais c'est lié évidemment à cette rythmicité-là, annuelle, mais aussi une rythmicité de 24 heures liée à la rotation de la Terre avec l'alternance jour-nuit. Et ça, c'est le rythme dit circadien, hein, le jour qui tourne, voilà, circa, ça tourne, et dien, dies, le jour. Donc un rythme de 24 heures. Et ça, ça nous est imposé. Vous n'y pouvez rien. Si vous étiez sur une planète qui tourne à 20 heures, en 20 heures, vous auriez un rythme de 20 heures. Et puis ces périodes-là, eh bien, font que le jour et la nuit ne sont pas, n'ont pas la même longueur au cours de l'année. Vous avez des jours plus longs l'été que l'hiver et des nuits plus longues l'hiver que l'été. Et ça, ça vous impose votre rythme qui va changer progressivement. Et progressivement, au cours du printemps, eh bien, vous allez avoir le sentiment que vous pouvez que votre sommeil, votre besoin de sommeil arrive plus tard le soir. 21h, 22h, 23h. Vous restez plus facilement éveillé le soir, tout simplement parce qu'il y a du jour. La nuit, l'hiver à 18h, 19h, vous avez l'impression qu'il est déjà 21h, 22h, voire 23h, parce qu'il fait noir et vous avez envie de dormir. Donc l'alternance jour-nuit, c'est quelque chose de très important. Et ça a été étudié par non pas l'alternance jour-nuit, mais le fait que nous vivions sur 24 heures. Eh bien, Michel Siffre s'est posé une très très bonne question dans les années 60. Est-ce que notre rythme à nous, si on est isolé de tout, isolement temporel, de la lumière en particulier, mais du bruit, des rythmes sociaux, est-ce qu'on va vivre sur 24 heures ? Eh bien, Michel Siffre a découvert que notre horloge biologique, d'abord, qu'on avait une horloge biologique, une horloge interne. Cette horloge interne, elle est située dans le cerveau. Là, on l'a isolée après. Mais cette horloge interne ne vit pas un rythme de 24 heures. Michel Siffre, quand il était isolé dans la grotte, n'avait pas un rythme de 24 heures, mais un rythme légèrement. La période d'une journée était un peu plus longue. Il vivait des jours de 25 heures. Et d'ailleurs, Michel Siffre a recommencé pour l'an 2000, hein, pour le passage en l'an 2000, donc avec 40 ans d'écart, un petit peu moins, pour savoir si le rythme de son horloge biologique, son horloge interne, avait changé. Et donc en 40 ans, son horloge n'a pas changé, il avait le même rythme, il s'est isolé de la même façon, mais avec des conditions plus scientifiques, je dirais. Donc on est tous, en fait, avec une horloge interne. Donc c'est une petite structure dans le cerveau qui nous règle à un rythme différent des 24 heures. Or, on vit un rythme de 24 heures. Donc comment on peut vivre un rythme de 24 heures ? C'est simplement qu'on a cette horloge, cette alternance jour-nuit qui se fait sur 24 heures et qui va régler notre horloge biologique tous les jours. Donc quand vous êtes éclairé dans la journée et quand le noir se fait, eh bien, vous avez une information qui va aller dans le cerveau pour vous dire il fait nuit, il fait jour. Et ça, c'est tous les jours, vous réglez votre montre. Imaginez que tous les matins, vous mettiez votre montre à l'heure pour la mettre à l'heure sur 24 heures. Vous avez une montre qui, si elle va trop vite ou pas assez vite, vous allez la régler pour être à l'heure. Eh bien, nous, dans le cerveau, on a une montre qui se dérègle tous les jours de quelques minutes. Elle va être en avance. En fait, on a fait des expériences. Maintenant, cette horloge est autour de 24 heures 15, 20 minutes, un peu plus longue. Mais elle a besoin d'être réglée. C'est l'alternance jour-nuit. Et ça, c'est très, très important parce que ça va nous obliger à vivre à un rythme de 24 heures. Et si vous ne respectez pas cette alternance jour-nuit, autrement dit, si vous vous éclairez la nuit, eh bien, l'horloge biologique, elle, va être déréglée. Elle ne saura pas quoi faire. Elle prendra le jour pour la nuit et la nuit pour le jour. Donc, il faut respecter ça. Ça veut dire qu'en général, le soir, eh bien, il faut, à un moment donné, éteindre la lumière pour aller se coucher. Ou se coucher et éteindre la lumière et ne pas regarder la télévision au lit, parce que ça, c'est un marqueur de lumière, hein, la télévision. Là, on est éclairé en ce moment et ça gêne le réglage de cette horloge biologique. Alors, si vous voulez tout sur l'horloge biologique, je fais aussi des conférences sur l'horloge biologique. Il y a tout un programme avec Mendès France sur l'horloge biologique. Bon, je fais un peu de publicité pour Mendès France, mais c'est moi qui l'ai fait aussi. Et donc, il y en a une quinzaine, je pense, ou je ne sais plus, une bonne vingtaine d'ici le mois de juin, dans toute la région, dans les écoles. Je vous parlerai de l'horloge biologique, c'est très, très intéressant. Et puis, un autre facteur de rythme, c'est l'horloge sociale. Ça va rythmer notre horloge aussi, les rythmes sociaux. Et donc, si vous perdez le repère jour-nuit et les rythmes sociaux, eh bien, vous déréglez votre horloge et vous déréglez votre sommeil. Et si vous déréglez votre sommeil, il y a des chances que vous dormiez mal la nuit et que vous dormiez le jour. Alors, il y a des cas très fréquents qui existent comme ça, c'est les sujets âgés. Progressivement, quand vous vieillissez, eh bien, vous dormez de plus en plus tôt, vous éclairez plus ou moins le jour, hein, vous avez tendance à garder les volets un peu fermés, vous avez moins de vie sociale, et donc votre horloge se dérègle. Mais quantitativement, dans les 24 heures, vous prenez le même temps de sommeil, mais vous dormez le jour et vous ne dormez pas la nuit, ou moins la nuit. Donc c'est une insomnie qui n'en est pas une, en fait. Donc ça, c'est très important, parce qu'en fait, ça va régler notre sieste. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sommeil, en fait, c'est une régulation homéostatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un besoin qui va s'accumuler dans la journée. La régulation, donc c'est un besoin nécessaire, comme la soif. Vous avez besoin d'eau, vous avez une quantité d'eau dans l'organisme, cette quantité est fixe, elle est réglée, il y a un thermostat, hein, qui, c'est pas pour régler la température, mais c'est pour régler le niveau de l'eau. Et bien, cette régulation homéostatique, elle existe aussi pour le sommeil. Donc vous avez un besoin de sommeil, une quantité nécessaire qui est propre à chaque individu. Cette quantité de sommeil s'accumule dans la journée. C'est ce modèle-là. Une accumulation du sommeil au cours de la journée qui disparaît la nuit. Donc quand vous vous levez le matin, ici, vous voyez là c'est le lever, eh bien vous vous levez, vous accumulez, parce que vous êtes actif le jour et que vous ne dormez pas, que vous n'allez pas au lit, eh bien vous accumulez un besoin de sommeil tout au long de la journée. Et ce besoin il est très important, puisque c'est ce besoin très fort qui va vous faire dormir le soir, parce que vous avez tellement envie de dormir, hein. Il y a des marqueurs du besoin de sommeil, hein, les bâillements, le picotement des yeux, la tête qui tombe, tout ce que vous voulez, j'ai envie de dormir, ça se ressent, et bien quand ce seuil est atteint de sommeil maximum ici, vous allez vous coucher, et la nuit, ce besoin disparaît parce que vous consommez ce besoin. Ce besoin de sommeil, il a été identifié, c'est l'adénosine qui s'accumule dans le cerveau, c'est une molécule, hein, qui est un déchet de l'ATP. L'ATP, c'est la molécule énergétique qu'on utilise pour faire fonctionner nos cellules. Donc moi, je compare ça à l'essence de votre voiture. Quand vous prenez de l'essence pour faire fonctionner votre voiture, ça roule, et en même temps, vous dégagez du gaz carbonique. Ça, c'est le déchet. Le déchet de l'essence, l'essence, c'est l'ATP. Le déchet, c'est l'adénosine. Cette adénosine s'accumule dans la journée, puisque vous avez besoin d'énergie pour travailler. Et là, il y en a trop. Il faut l'éliminer. Elle est dégradée dans la nuit. Et le matin, quand il n'y en a plus, vous vous réveillez. Donc, il y a un rythme. Et ça, ça fixe votre quantité de sommeil. Donc, ce que vous notez bien ici, c'est que le matin, plus vous allez être réveillé dans la journée, plus la durée d'éveil est longue, plus vous aurez envie de dormir le soir. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à s'endormir le soir, et c'est fréquent, ça s'appelle une insomnie d'endormissement, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est augmenter sa durée d'éveil. Plus vous augmentez la durée d'éveil, mieux vous vous endormirez le soir. Donc ça, c'est un point très, très important. Si vous comprenez ce point-là, vous avez compris beaucoup de choses pour régler votre sommeil, si c'est des problèmes de sommeil. Mais en fait, on ne s'endort pas à n'importe quel moment dans la journée. Parfois, vous allez vous coucher à 17h et vous ne dormirez pas. Ou si vous vous levez le matin à 8h et vous vous recouchez à 9h, vous ne dormirez pas pour deux raisons. Parce que vous n'avez plus besoin de sommeil. La quantité de sommeil, de besoin de sommeil accumulé n'est pas suffisante. Et aussi parce que ce n'est pas la bonne heure. Il y a une heure qui est intéressante pour s'endormir plus facilement. Alors, vous voyez ici, cette courbe vous montre... On ne peut pas être réveillé et endormi n'importe quand. Il y a des moments plus propices à l'endormissement que d'autres, ou des moments plus propices à l'éveil que d'autres au cours des 24 heures. Donc ici, vous avez les 24 heures de la journée, 19h, 19h. Et là, c'est l'éveil. Hein, vous voyez, là, vous êtes très éveillé. Et cette courbe diminue, diminue, diminue. Et là, vous arrivez au sommeil. Ici, vous êtes quasiment toujours endormi vers 4 heures du matin. Il y a de grandes chances que vous vous endormiez. Et là, vous allez vous coucher, vous voyez, au moment ici où vous avez envie de dormir un maximum. C'est l'envie de dormir qui augmente ici. Et là, vous voyez, et puis ensuite, moins envie de dormir et vous allez vers l'éveil. Donc l'envie de s'éveiller augmente. Là, vous êtes très éveillé. Et vous voyez dans l'après-midi, ici, vers 14, 15 heures à peu près, vous avez à nouveau envie de dormir. C'est le moment de la sieste. C'est à ce moment-là que vous êtes moins vigilant. C'est à ce moment-là où vous allez vous sentir plus fatigué ou si vous êtes en train de lire, vous lisez, mais vous avez des difficultés ou vous recommencez le chapitre ou les lignes. Ah, vous n'avez pas compris. Vous êtes plus distrait aussi. Vous êtes moins attentif. si vous faites quelque chose qui nécessite de l'attention, vous avez plus de difficultés. Si c'est de la précision physique, vous serez moins précis physiquement. Vous avez un temps de réaction qui va s'allonger. Vous réagirez moins vite. Si vous conduisez ici, vous réagirez moins vite en freinant. Vous ne vous en rendez pas compte nécessairement. Hein. Parfois, il faut faire des tests psychométriques pour vraiment mesurer le temps de réaction réel. Hein, on allume une petite lampe et on demande à la personne de l'éteindre le plus rapidement possible. Alors que la personne n'a pas conscience qu'elle est moins performante, eh bien, si on la teste à cette période-là, elle ira moins vite que si on la teste à cette période-là. Donc ça, c'est une régulation tout à fait physiologique et ça c'est le rythme circadien, c'est ce rythme veille-sommeil. Là, vous êtes éveillé, endormi, et puis ensuite vous êtes éveillé, sauf que là, en début d'après-midi, vous avez envie de dormir. Et cette envie de dormir est présente que vous ayez mangé ou pas. Hein, donc deux moments favorables au sommeil, la nuit, besoin naturel de sommeil avec une somnolence élevée, surtout vers 1h à 6h du matin, et là vous avez un fort risque d'accident de la route entre 4h, entre 3h et 6h du matin. Il ne faut pas conduire à cette période là vous vous levez à 1h du matin, vous prenez la route, vous allez vous rendormir à 6h du matin. Donc c'est une période dangereuse, hein. Les accidents, il y en a, le plus d'accidents surviennent ici et pendant la période de sieste, ici, ou de besoin de sieste. Et le jour, besoin naturel de sieste, ici, avec ce besoin de somnolence en début d'après-midi. Et ça, vous voyez, c'est lié, l'endormissement le soir est lié à la courbe de température qui diminue. Le soir, votre courbe de température diminue, et ça facilite l'endormissement. La température corporelle, elle varie au cours de la journée. Elle augmente dans la journée, progressivement. Et le soir, elle est au maximum. Et ensuite, elle diminue, avec le minimum vers 4 heures du matin, 5 heures du matin. Et c'est l'heure à laquelle vous vous endormez quasi systématiquement. Quand vous avez froid, si vous faites une nuit blanche, vous avez froid, vous avez envie de vous couvrir et vous vous isolez dans la pièce. Il y a plein de gens qui étaient dans la pièce où vous étiez. Et puis hop, vous vous isolez, vous vous couvrez, et puis là, vous vous endormez facilement. Si vous êtes au volant de la voiture, et bien c'est la même chose. Accident, d'accord ? Donc ça, c'est un danger. Donc la sieste, eh bien, on va plutôt choisir théoriquement de la faire ici, au moment, dans la journée, au moment où c'est le plus favorable. Alors en plus de ce rythme circadien que vous avez vu, du sommeil et de l'éveil, il y a un rythme que tout le monde ignore, mais que vous avez dans la journée et qu'on a bien détecté à part de mesures d'actimétrie. L'actimétrie, ça consiste tout simplement à mettre une petite montre au poignet. Cette montre n'est pas une montre, c'est simplement quelque chose qui mesure l'activité, les mouvements du poignet. Et vous avez ici, plus la courbe noire monte, plus vous êtes actif. Donc vous voyez ici, c'est minuit, hein, donc une journée. Vous voyez qu'ici, la personne n'est pas très active, c'est en bas, c'est au minimum. Et puis, ça monte progressivement, et puis ça descend progressivement. Alors que cette personne se sent parfaitement active à l'identique toute la journée. Donc là, évidemment, c'est la nuit. Hein, je fais normalement, voilà, nuit. Donc là, la personne dort. Avec ce système tout simple, on peut très facilement apprécier les périodes de sommeil. Bien. Et puis ici, le jour. Et ensuite, la nuit de nouveau. Et puis ici, vous voyez des oscillations de grande activité et de diminution d'activité, de grande activité, diminution. Alors, c'est plus ou moins régulier, mais regardez ici. Eh bien, ce rythme-là, c'est à peu près 1h30 en moyenne, c'est un rythme ultradien de 90 minutes. Et ça, 90 minutes, ça correspond à la période de sieste longue, la sieste royale que vous allez faire en début d'après-midi si vous en avez vraiment besoin. C'est la sieste longue. Eh bien, ce rythme-là que vous voyez de 90 minutes, hein, ce rythme est présent pendant le sommeil et ça définit les cycles de sommeil de 90 minutes. Un cycle de sommeil, c'est 90 minutes. Donc, c'est 90 minutes, premier cycle, plus 90 minutes, plus 90 minutes. Vous vous endormez le soir, vous faites un premier cycle, et puis ensuite, arrivé à 50 ans, on a souvent tendance à se réveiller après le premier cycle, même presque toujours d'ailleurs, de quelques secondes, hein, parfois on ne s'en rend pas compte. Ça peut durer 2 minutes, 10 minutes, et on se rendort. Normalement, on se rendort avec des éveils qui vont avoir des durées variables. Bien, ce rythme des phases de sommeil la nuit, ces cycles de sommeil, vous les connaissez. Souvent, les gens savent qu'il y a des cycles de sommeil. Il y a du sommeil lent, il y a du sommeil profond, il y a du sommeil paradoxal, qui est le sommeil des rêves, le sommeil profond, le sommeil récupérateur. Mais dans la journée, eh bien, vous bougez plus ou moins sans vous en rendre compte. Eh bien, vous voyez, et si on vous mesure par actimétrie, on voit une personne très active qui diminue comme ça, qui augmente avec un rythme. Et on va profiter d'ailleurs chez les navigateurs solitaires, on mesure par actimétrie leur période d'activité et on leur propose de s'assoupir, par exemple, à ce moment-là, quand ils en ont besoin, ici, dans les creux d'activité, alors qu'eux ne se rendaient pas compte qu'ils étaient moins actifs. C'est un rythme qui est moins connu. Et là, vous voyez, au moment de la sieste, eh bien là, on est encore beaucoup moins actif. Et c'est l'heure à laquelle on va bénéficier le mieux de la sieste. Alors pourquoi une sieste ? Ben ça découle tout simplement de cette régulation du sommeil que je viens de vous expliquer. Hein, il faut satisfaire un besoin physiologique, c'est la régulation circadienne, ce rythme que je vous ai montré. En début d'après-midi, on s'endort plus facilement, le besoin de sommeil augmente un petit peu, donc ben, si on peut faire la sieste, ce sera bien. Et puis souvent, on va faire une sieste pour compenser une dette de sommeil. Vous manquez de sommeil, et puis on va aller faire des stratégies de récupération, et ça, c'est la régulation homéostatique. On a accumulé un besoin de sommeil dans la journée, on s'endort le soir, mais on va avoir un sommeil trop court. On va dormir 5 heures au lieu de 8 heures. Il nous manque des heures de sommeil. Mais on n'a donc pas tout éliminé, la adénosine n'a pas été entièrement éliminée. Et ça, c'est la composante homéostatique d'accumulation du besoin de sommeil. Ça, c'est la composante oscillatoire. Et ces deux composantes sont fondamentales pour expliquer la survenue de la sieste. Donc, quand on va compenser une dette de sommeil, on va la compenser parce qu'on s'est couché trop tard. Si vous vous couchez trop tard, qu'est-ce que vous faites généralement ? On se lève plus tard. Mais si vous travaillez, est-ce que vous pouvez vous lever plus tard ? Non. Donc vous vous couchez trop tard et vous vous levez à la même heure. Donc, vous manquez de sommeil. Ça arrive très fréquemment. Si vous êtes travailleur de nuit, là, vous manquez carrément de sommeil. Vous n'avez pas travaillé la nuit. Vous n'avez pas dormi la nuit. Et si vous vous levez très tôt, c'est la même chose. Vous êtes couché à heure normale parce que le besoin de sommeil n'arrive que quand il est là, vers 22 heures. Il est fixé par votre horloge biologique. Et donc, si vous vous levez trop tôt, vous n'avez pas assez dormi. Et donc là, vous allez avoir besoin de dormir dans la journée et faire des siestes compensatrices. Parfois, pas toujours. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Compenser le manque de sommeil de nuit. On va plutôt profiter du week-end. Alors, le besoin de sommeil à durée réelle, donc régulation homéostatique, donc le besoin qui s'accumule. Vous voyez, chez le temps de sommeil, ça c'est une enquête qui a été faite par l'Institut national du sommeil et de la vigilance en 2012. Cet institut assure, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une journée du sommeil tous les ans, c'est au mois de mars. Donc, on fait une enquête tous les ans pour voir un petit peu comment le sommeil des Français évolue par rapport au sommeil des Américains, etc. En France, on a maintenant une série d'enquêtes comme ça. Et là, cette enquête de 2012 nous donne, vous voyez, des gens qui dorment moins de 6 heures pendant la semaine, ici, 5h33 en moyenne. 23% des gens. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça, 5h33 de sommeil dans la nuit. Et puis, si vous regardez ceux qui dorment plus de 8 heures, c'est 8h18. Et ceux qui dorment entre 6 et 8 heures, c'est 7 heures dans la semaine. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ces gens dorment la quantité dont ils ont besoin ou est-ce qu'ils dorment pas assez ou trop ? Alors, on leur pose la question le week-end. Et moi, je fais les mêmes enquêtes chez les lycéens, si je leur demande, pendant les vacances. Si vous voulez savoir la quantité de sommeil dont vous avez besoin, c'est pendant les vacances, après 10 jours de récupération. Deux week-ends et après vous commencez à compter combien de temps vous dormez la nuit, heure de coucher, heure de lever, combien de temps j'ai dormi. Et vous voyez que le week-end, 7h20, ils ont augmenté d'1h47, 2h quoi en gros. Ceux qui étaient à 7h, alors qu'ils pourraient penser dormir assez, ils ont augmenté d'1h15, donc 1h12. Ça s'appelle la dette de sommeil ou l'insuffisance de sommeil. Donc ces gens-là manquent de sommeil 2h par jour, enfin par 24 heures. Donc vous voyez qu'au bout de 7 jours, il leur manque 14 heures de sommeil. En gros, presque deux nuits. Les petits dormeurs, ce qu'on appelle les petits dormeurs, sont des gens qui dorment moins de 6 heures, qui ne récupèrent jamais. C'est leur quantité. Les gènes leur ont programmé 6 heures de sommeil. Ils n'ont pas besoin de 8. Donc la semaine, le week-end, les vacances, ils dorment 6 heures, parfois 5. Ça, c'est moins de 5% de la population. Les gros dormeurs, les longs dormeurs plutôt, parce qu'on peut être long dormeur et pas gros, donc les longs dormeurs, plus de 9h, 9h30, ce n'est pas une définition fixe, c'est pareil, 10% de la population. voyez, là, c'est 8 heures. Hein. Donc là, vous ne retrouvez presque pas de longs dormeurs. Donc il n'y a presque plus de gens qui dorment 10 heures. Quand vous êtes long dormeur, vous avez besoin d'une grande quantité de sommeil, 9 heures, 11 heures. Mais vous êtes bien dans la journée, vous n'avez pas envie de dormir. La différence d'une personne qui a une hypersomnie, qui dort beaucoup, et dans la journée, qui a encore envie de dormir. Donc ça, ce n'est pas normal. Hein. Si vous dormez la quantité dont vous avez besoin dans la nuit, vous n'avez pas envie de dormir dans la journée. Et le matin, quand vous vous levez, vous êtes reposé. Si le matin, on se lève avec l'envie de dormir, c'est qu'on n'a pas dormi assez ou que le sommeil n'est pas de bonne qualité. Donc vous voyez, la dette de sommeil, elle est majeure pour ces gens-là. 23, on va dire 25%, un quart de la population française. C'est énorme. Hein. Alors ces gens-là, est-ce qu'ils font la sieste? Ben, vous voyez que finalement, si on demande aux gens, est-ce que vous faites la sieste? Un tiers des Français font au moins une sieste par semaine. C'est, voilà, 33% des répondants, donc deux siestes en médiane. Donc ça veut dire 50% des gens font deux siestes en moyenne pendant la... Donc sur un tiers des gens qui font la sieste. Mais ceux qui font la sieste, ce sont plutôt les gens, vous voyez, de 55-65 ans, les gens inactifs, ceux qui ont des troubles du sommeil, ça c'est normal, ils ont tellement envie de dormir qu'ils ont envie de faire la sieste. Et ils font la sieste par obligation pathologique, ils ne peuvent pas faire autrement, ils s'endorment dans toutes les situations, en lisant le journal, en regardant la télé, parfois en conduisant, c'est dramatique. Hein, ils sont somnolents, les ronfleurs réguliers font la sieste. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise qualité de sommeil. Si vous ronflez et que vous êtes somnolent dans la journée, il faut vous poser une question. Est-ce que j'ai un syndrome d'apnée du sommeil ou pas? Ou est-ce que je manque de sommeil? Donc avant d'aller voir pneumologue, on regarde son temps de sommeil. Si on ne dort pas assez, on allonge son temps de sommeil d'une heure et on regarde si on est toujours somnolent. Et pour la durée de la sieste, vous voyez que la moitié des gens qui font la sieste ont des durées de 20 à 30 minutes. Et que le quart des gens qui font la sieste ont des siestes plutôt longues, de 1 heure, voire 2 à 3 heures. Alors on va parler de ces siestes-là. Donc vous voyez que finalement, il y a 2/3 de la population française qui ne fait pas la sieste, malgré le besoin de sieste de début d'après-midi. Et les gens qui font la sieste, mais là ils n'ont pas fait le lien, ne sont pas nécessairement les gens qui sont en dette de sommeil. Les gens qui manquent beaucoup de sommeil ne font pas forcément la sieste dans la semaine. Parce que ce sont souvent des gens actifs ou des gens qui ne peuvent pas faire la sieste et qui vont récupérer le week-end. Alors, pourquoi est-ce que c'est bien de faire la sieste? Ça, c'est les bienfaits de la sieste. Alors, on va parler de la sieste un peu plus. Mais ça favorise une fonction majeure du sommeil, qui est le maintien de la vigilance. Si vous êtes vigilant, attentif dans la journée, c'est parce que vous avez bien dormi. Et ça, c'est une fonction majeure pour la mémoire, pour tout ce que vous voulez faire. Si vous n'êtes pas vigilant, vous serez déficitaire sur les fonctions que vous allez exécuter. L'attention, le temps de réaction, vous serez moins disponible, moins efficace, ça réduit les erreurs. Et ça, c'est vraiment, sur le plan économique, c'est extrêmement important. On arrive maintenant à convaincre quelques chefs d'entreprise en leur expliquant qu'une secrétaire qui est 14 heures en train de dormir sur son clavier et qui fait des erreurs de saisie de données, ou une autre d'ailleurs, eh bien c'est dramatique, alors qu'un petit peu de sommeil aurait suffi pour améliorer les choses. Et ça va compenser l'excès d'éveil. Alors un excès d'éveil, si vous êtes éveillé trop longtemps, ben vous pouvez être fatigué et somnolent. Quand est-ce que vous êtes éveillé trop longtemps? Quand vous manquez de sommeil. Si vous vous couchez tard ou vous vous levez tôt, vous êtes éveillé trop longtemps. Donc le besoin de sommeil s'est accumulé en grande quantité. Et comme vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas dormi assez, vous n'avez pas éliminé votre besoin de sommeil, qui est toujours là, et dès que vous vous réveillez, vous avez à nouveau envie de dormir. Alors si vous vous réveillez à 8 heures du matin, ce n'est pas le moment propice pour dormir, donc là, vous êtes éveillé, bien que vous ayez fait un sommeil très court, de 5-6 heures, le matin, quand vous vous réveillez, vous n'avez pas envie de dormir nécessairement. Mais au bout de quelques heures, et surtout en début d'après-midi, eh bien, le manque de sommeil... le besoin de sommeil qui n'a pas été éliminé, plus le besoin de sommeil naturel s'accumule, et là, vous avez une forte envie de dormir. Et donc, cet excès de fatigue, cet excès d'éveil, ça constitue un stress vasculaire, notamment pour l'hypertension artérielle. Vous avez un risque d'hypertension artérielle si vous ne dormez pas assez, un risque de diabète supplémentaire, un risque d'infarctus supplémentaire, un risque d'accident vasculaire cérébral supplémentaire, uniquement par le fait de ne pas dormir assez. Alors, ça a été testé par les Américains, enfin pas testé, exploré. Les insomniaques qui dorment moins de 6 heures, enfin, disons que c'est moins de 5 heures dans l'étude, mais maintenant on a des... Donc moins de 5 heures, moins, on a une personne qui se plaint de son sommeil, qui ne dort pas 5 heures efficacement, eh bien un risque d'hypertension artérielle augmenté par 9. Multiplié par 9 dans le syndrome d'apnée du sommeil, c'est multiplié par 3. Donc vous voyez, c'est très très important de prendre ça de prendre conscience de ce phénomène, c'est dormir assez, il faut dormir assez. Et de faire passer le message autour de vous, pas dormir trop, dormir la quantité dont vous avez besoin. Ça, c'est très important. Et surtout, vers les adolescents. On ne va pas parler des adolescents, tout petit peu, mais c'est là où il est le problème. Parce qu'eux vont dormir tard, ils vont se coucher tard ou s'endormir tard plutôt. Un stress psychologique, l'irritabilité. Ben, vous êtes irritable si vous ne dormez pas assez, vous avez des pertes de mémoire, trouble de la régulation de l'appétit, la réduction du champ visuel, ça c'est quand vous conduisez, c'est très dangereux. Quand vous ne dormez pas assez, que vous vous endormez, votre champ visuel rétrécit, vous ne voyez plus les panneaux, vous ne voyez plus la voiture qui arrive et vous tapez dedans. Hein, la diminution du temps de réaction. Ne pas compenser un manque de sommeil, ben, c'est un danger, en particulier pour la conduite et l'utilisation des machines. Il y a toujours un risque d'endormissement inopiné si l'on se force à lutter contre des épisodes de somnolence. Si vous avez fortement envie de dormir et que vous êtes au volant de la voiture, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de vous arrêter et de prendre un petit peu de sommeil. Donc on va voir comment, mais c'est la seule solution. Parce qu'autrement, ça va passer, vous résistez, et comme vous vous souvenez, c'est des cycles d'une heure et demie, y compris dans la journée. Donc après 15-20 minutes, vous n'avez plus envie de dormir. L'endormissement est passé. Donc vous vous sentez bien une heure, mais ça va revenir. Et là, ça va revenir de manière plus importante. Alors c'est le risque d'accident. Et vous voyez, parfois, il vaut mieux s'asseoir sur le côté, enfin s'arrêter, et puis dormir, comme se fait ce monsieur. Mais là, il a eu de la chance, parce qu'en fait, c'était à cause de son pneu qui était grevé, et il en a profité pour dormir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme sieste? Quelle est la bonne durée de sieste? Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à régler, hein, on va voir. La durée et la fréquence des siestes est donc à déterminer en fonction de l'état de fatigue ou de somnolence. Alors, fatigue et somnolence sont souvent confondus. Il y a une confusion dans les termes. Maintenant, en médecine, le terme somnolence est rattaché au besoin de sommeil. La somnolence, c'est quand vous avez envie de dormir et que vous êtes éveillé. Voilà. C'est la fatigue, c'est une fatigue physique, musculaire. Vous pouvez vous reposer d'une fatigue sans dormir. Vous ne pouvez pas faire disparaître une somnolence sans dormir. Si vous êtes somnolent, le seul moyen de faire disparaître cette somnolence, c'est de dormir. Il y a des contre-mesures, comme le café, des choses comme ça, mais la réalité, c'est qu'il simplement il faut dormir. Donc les micro-siestes, hein, ça c'est des choses très rapides. Ça peut être quelques secondes, hein, quelques minutes, souvent moins de 10 minutes. La sieste courte, 10 à 20 minutes. 30 minutes maximum, mais 10 à 20 minutes, c'est meilleur. Et puis la sieste longue, là, qui va permettre de compenser les choses. Alors la sieste flash ou micro-sieste, eh bien, c'est un moment de relaxation qui va durer 5 minutes, 10 minutes. Donc là, tout simplement, eh bien, on va se détendre, on va laisser l'esprit vagabonder et on n'attend pas le sommeil, surtout. Ça, c'est quelles que soient les siestes. Il ne faut pas chercher à dormir. Parce que là, dans ces siestes courtes, enfin ces micro-siestes, très souvent, le sommeil ne va pas venir. Mais vous aurez l'impression d'une détente très forte et vous aurez une qualité de repos souvent suffisante pour vous sentir mieux. Parce que ce sommeil, parfois, il ne va durer que 2-3 secondes. Et 2-3 secondes de sommeil, on ne s'en rend pas compte. Hein. Nous, au laboratoire, au centre de sommeil, on peut réveiller des gens qui sont en sommeil profond. On les réveille, on leur demande s'ils ont dormi, ils nous disent non. J'ai pas dormi, alors que nous, on a la preuve par l'enregistrement qu'ils sont en plein sommeil. Hein. Alors, quand la personne dort au bout de 10 secondes, si on la réveille, elle dit non, je dormais pas. Ou je sais pas. Hein, vous voyez, pas une conscience. La conscience du sommeil, on l'a que par le repos qu'on a après le sommeil. Donc, vous savez que vous avez dormi parce que vous êtes bien reposé. Donc là, la personne, si elle dort ou si elle est reposée, elle sait pas trop. Mais en tout cas, elle a profité de ça et elle dit j'étais bien. Bah, c'est une durée qui peut paraître insignifiante, mais bon, avec de la pratique, et si le corps en a besoin, et ça c'est très important, si le corps en a vraiment besoin. Parce que si vous pouvez toujours faire une micro-sieste, si vous n'avez pas envie de dormir, ça ne marchera pas. Vous pouvez vous détendre, mais vous ne dormirez pas. Donc ça c'est de la relaxation. On verra ça un petit peu tout à l'heure. Hein, on peut la faire n'importe où, cette micro-sieste. Hein. Vous pourriez en faire une ici. D'ailleurs, ceux qui veulent, ils peuvent. Hein, ce n'est pas un problème. Hein. Et alors, il ne faut pas avoir peur de faire une micro-sieste parce que souvent, les gens autour de vous ne s'en rendent pas compte. Vous pouvez dormir 2 minutes à côté de quelqu'un, il ne s'en rend pas compte. Parce que lui, il est attaché à faire autre chose. Hein. Donc, il y a des gens comme ça qui font des démonstrations très fortes. Hein. Ils occupent tout un public comme vous, là, à regarder un écran. Et puis, ils font autre chose pendant ce temps-là. Hein. C'est typiquement les magiciens. Et vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils ont fait. Et pourtant, vous étiez très attentif à ce qu'il était en train de faire. Donc, vous pouvez dormir tranquillement 1 minute, 2 minutes à côté de quelqu'un. Il ne s'en rend pas compte, surtout dans les transports. Ne pas penser à dormir, se détendre, respirer calmement. On va voir quelques techniques, tout simplement. Et ça, c'est bien au travail, à l'arrêt, au volant de la voiture. Hein, on s'arrête et puis on ne descend pas. Parce que le fait de descendre et de marcher, ça vous éveille. On le fera après la sieste. Après, on ira faire un petit tour autour de la voiture. Et puis ça, c'est évidemment indispensable si le besoin de sommeil est très urgent. Bon, alors, parfois, il faut chercher les conditions idéales, mais parfois, on peut la faire, vous voyez, dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales. Parfois, sur une branche, comme ce petit chardonneret ici, bah lui, c'est une condition idéale pour lui. Mais attention, hein, s'il a une chute de tonus, il va tomber. Donc, il faut savoir la faire, trouver un petit moment au travail, s'isoler 5 minutes pour ce type de sieste flash. 5 minutes ou 2 minutes, c'est difficile parfois quand on est en entreprise ou maintenant les open space, là, dans les bureaux où il y a 10, 15, 20 bureaux. C'est pas facile. Donc, il faut gérer ça de manière collective. Dans les transports en commun, c'est intéressant. On peut profiter pour fermer les yeux et se détendre. On ferme les yeux et puis on a un objectif, c'est d'arriver au bout. Mais entre les deux, on n'a rien à faire spécial. Donc, pas hésiter à fermer les yeux et surtout ne pas penser à dormir. Parce que si vous pensez à vous endormir, vous ne dormirez pas. Hein. Et puis, si vous avez peur de ne pas vous réveiller, eh bien, soit vous dites au voisin qui est à côté, ben, quand on arrive à telle station, il faut me réveiller, ou bien vous mettez un minuteur, hein, vous prévoyez. La deuxième type de sieste, c'est la sieste courte. Ça, c'est 10-20 minutes. Et ça, c'est pour éviter de passer en sommeil profond. Alors, le sommeil profond, c'est le sommeil qu'on fait dans les 2 ou 3 premiers cycles des phases de sommeil au cours de la nuit. Hein. Il y a le premier cycle, c'est beaucoup de sommeil profond. Le deuxième cycle, un petit peu moins. Le troisième cycle, un petit peu moins. Puis les cycles qui terminent la nuit n'ont pas de sommeil profond. Mais le sommeil profond est très, très récupérateur sur le plan physique. Et donc, quand on est dans cette phase de sommeil, on est vraiment endormi dans un sommeil où, pour être réveillé, il faut être stimulé très, très fort. Et quand on va se réveiller, on va avoir ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. On ne va pas être bien, forcément. Et donc, pour éviter ça, et pour éviter de dormir le jour qui sera du sommeil qu'on prendra et qu'on n'aura pas pour le soir, on va faire des siestes courtes. Et ça, c'est souvent la sieste la plus recommandée. Celle d'avant aussi, hein, pour un besoin urgent, où vraiment on ne peut plus te tenir, on dort 2 minutes, c'est parfaitement efficace. Et donc on va essayer de ne pas passer en sommeil profond, mais ce n'est pas quand vous dormez, ce n'est pas vous qui décidez si vous passez en sommeil profond ou pas, hein, c'est votre cerveau qui le décide. Mais en général, le début de nuit, pour passer en sommeil profond, surtout dans la journée, c'est beaucoup plus difficile, il faut 15, 20, 30 minutes avant d'y arriver. Hein. C'est pour ça qu'on recommande des siestes courtes, et pour pas consommer du sommeil dont on aura besoin pour la nuit. Mais c'est suffisant pour récupérer, et puis le réveil, si nécessaire, on pourra le provoquer. Alors comment on va faire? Il faut s'installer confortablement dans la pénombre, dans un endroit tranquille, là, vous voyez, dans la pénombre, si possible, hein, s'isoler, alors que pour la sieste flash, c'est pas la peine, hein, vous faites ça sur le bureau. Moi, je vais vous donner un exemple de sieste facile à faire. Voilà. Alors, je ne vais quand même pas dormir 2 minutes devant vous, surtout si je ronfle après. Hein, voilà. Là, vous pouvez facilement trouver 1 minute ou 3 minutes dans la vie, dans une journée, pour faire ça. Et ça, ça marche très bien. Et moi, quand j'étais aux États-Unis, pendant un an, j'étais avec un Chinois. Mon bureau était là, le sien était juste derrière, et je me retourne pour lui parler, il est en train de dormir à 10 heures du matin. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Je ne faisais pas le sommeil à l'époque. Hein. Mais ça m'a vraiment marqué. J'étais surpris. Je dis, c'est bizarre, on est en train de parler 5 minutes avant. Hein. Et vous verrez, dans les films, ils dorment dans les bus, tout ça. Nous, personne, on voit quand même. Une fois, je revenais de Paris. À 5 heures de l'après-midi, vous avez vu que ce n'est pas l'heure normale de la sieste. À 5 heures de l'après-midi, c'est entre 11 et 15 heures à peu près. Entre midi et, enfin, disons 13 heures et 15 heures. J'avais une bonne dizaine de personnes autour de moi qui dormaient dans le train. Alors là, ce n'est pas de la sieste, c'est une sieste volontaire probablement, mais aussi parce qu'il manquait de sommeil. Il y avait les deux. Hein, mais le transport, c'est bien. Alors, détendre ses muscles, penser à rien. Voilà. Alors, comment on fait pour penser à rien? Si je vous dis ne pensez à rien, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à rien. Mais rien, c'est quelque chose. Donc, on parle de vagabondage. Donc, on laisse l'esprit vagabonder. Surtout pas s'attacher à un point. Bon, j'ai oublié les clés de la voiture, elles sont perdues, etc. Et puis ça, il ne faut pas se fixer là-dessus. Je n'ai pas fermé la porte de la maison ce soir en partant. Ça, ce n'est pas bon. Le gamin, il y a un examen. Non, on laisse l'esprit vagabonder. Parce que si on s'attache à un événement particulier, eh bien là, vous pouvez, ça va vous éveiller. Et l'événement le plus fort, c'est d'essayer de dormir. Si vous essayez de dormir, vous n'y arriverez pas. Donc ne pas se forcer à dormir, se relaxer. Alors si on a peur de dormir trop longtemps, on va mettre un minuteur et se réveiller au bout de 20 minutes maximum. Mais vous pouvez mettre 10, hein, c'est pas gênant. Là, vous allez vous réveiller si vous dormez en sommeil léger. Et ça, c'est pas très gênant de se réveiller en sommeil léger. C'est pas perturbant. Hein, on sait où on est, parfois on sait même pas si on a dormi, donc c'est intéressant. Et puis à la fin de cette sieste, comme à la fin parfois de la sieste courte, hein, enfin de la micro-sieste, mais on a la sensation de repos. On parle de sieste rafraîchissante. Nous, quand on interroge les patients, on leur demande si les siestes sont rafraîchissantes. Une sieste, même courte ou longue, d'ailleurs c'est pareil, doit être rafraîchissante. Vous devez vous sentir mieux après qu'avant. Si une sieste ne vous rafraîchit pas, c'est qu'elle n'était soit pas nécessaire et vous avez pris du sommeil qui n'était pas utile, soit il y a un problème qui se passe pendant la sieste. Ou il y a une maladie, hein, il y a certaines hypersomnies idiopathiques, les gens dorment tout le temps, le jour et la nuit, et quand ils dorment, ça ne les repose pas du tout. Puis vous serez moins énervé, plus disponible pour les autres, plus attentif, plus actif, etc. Et ça, c'est les bienfaits de la sieste. Et c'est sur le. Alors, pour les entreprises, on insiste beaucoup sur l'aspect économique, hein, toujours. Ça rapporte de l'argent de dormir. Ça, c'est surprenant de dire ça. Vous allez gagner de l'argent à faire dormir vos employés. Alors ça, c'est... Tout le monde n'a pas cet avis-là. Hein. Tout le monde n'est pas convaincu. Alors les meilleures conditions, bah, vous avez compris que maintenant, c'est plutôt après le repas. Mais même si vous ne prenez pas de repas, c'est quand même la meilleure heure entre 13 et 15 heures. Parce qu'il y a cette tendance physiologique à dormir. Pas manger trop lourd, hein, voilà. Donc avoir des repas équilibrés. Les repas, c'est 30% d'énergie le matin, 40% d'énergie le midi. Et 30% d'énergie le soir, d'apport calorique. Hein, donc, vous voyez, les repas, normalement, c'est en gros un tiers, avec un petit peu plus le midi. Si on peut s'allonger dans un lieu isolé, c'est mieux, parce que l'organisme considère que la position allongée, c'est une position de sommeil. Et donc, ça, c'est mieux, si on peut. Bah, on peut s'allonger dans un fauteuil, sur la table, éventuellement, ou si on a la possibilité, vous savez, il y a des matelas peu épais en mousse là qu'on roule, on peut le dérouler dans son bureau. On ferme le bureau pendant 10 minutes et on peut se faire une sieste, hein, si on ne dit rien à personne. Mais il faut le dire quand même, parce qu'il faut faire passer ça dans l'esprit. Hein. Ne pas être dérangé, parce que si vous êtes dérangé, ça va vous perturber, vous ne serez peut-être pas bien. Donc si possible, prévenir les gens qui sont autour de vous. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas utile. Prévenez-les pas. Si vous pouvez vous isoler, autrement, vous dites, moi je m'en vais pour 5 minutes, laisse-moi dormir. Vous voyez bien que ça, ce n'est pas facile dans l'entreprise. Hein. Et si ce n'est pas autorisé, si votre patron arrive et que vous êtes en train de dormir sur le bureau alors que vous êtes censé répondre au téléphone, ça pose problème. Donc, il faut quand même s'interroger sur l'état d'esprit dans l'entreprise. Hein. Alors, il y a des entreprises, maintenant, il y a des endroits où on peut faire la sieste. Et bien, se mettre à l'aise. Alors, au minimum, retirer ses chaussures, ce n'est pas nécessairement vrai, mais disons, se détendre le plus possible. Hein, ne pas être dans des vêtements serrés, etc. Se mettre à l'aise, comme pour dormir, mais on ne se met pas en pyjama, ce n'est pas utile, c'est une sieste qui va durer 15 à 20 minutes, et on se laisse aller, dormir ou pas, ce n'est pas essentiel de dormir, mais là, ça va quand même permettre d'être reposé. Alors les cas particuliers, on les reverra, la sieste sur le lieu de travail, hein, si les longues journées aussi nécessitent de rester sur place, bah, on peut faire une sieste, vous voyez ici, hein, cet Indien là, qui fabrique, qui construit les... Lui, il a trouvé un endroit idéal, il est à quelques 100 mètres de hauteur. On pourrait avoir un local adapté. Donc, il y a certaines entreprises où maintenant les syndicats commencent à demander ce type de... Alors, ça se discute beaucoup. Hein. Moi, je fais des topos d'entreprises comme ça pour expliquer que c'est un besoin. Et le travail de nuit, eh bien, la courte sieste peut être utile au cours du travail de nuit en présence de forts épisodes de somnolence, notamment en deuxième partie de nuit. Pourquoi ? Vous avez compris, quand vous travaillez la nuit, la deuxième partie de nuit, c'est le minimum thermique, c'est le moment où vous allez vous endormir. Alors si vous êtes à la centrale nucléaire de Civaux et que vous êtes en poste de surveillance de nuit devant des écrans qui s'allument et qui s'éteignent, ou qui ne s'allument pas, ou qui restent inertes, eh bien, vous avez toutes les chances de vous endormir vers 4 heures du matin. C'est pour ça qu'il y a plusieurs postes, plusieurs personnes sur le même poste, hein, ils se contrôlent entre eux. Mais ce n'est pas très, très éclairé, par contre. Il faut être très éclairé la nuit, parce que la lumière, c'est un style, un éveillant très fort. C'est un puissant stimulant de l'éveil, la lumière. Alors, les siestes longues. La longue sieste, ça va durer plus d'une heure. Hein, c'est une heure ou plus. Alors, en 30 minutes et une heure, ben voilà, ce n'est pas la peine. Pourquoi une heure et plus ? Parce que vous entamez un cycle de sommeil. Et alors, autant le finir. Vous serez mieux que si vous vous réveillez en plein sommeil profond à la moitié du cycle. Hein. Donc là, c'est plus intéressant de finir le cycle, donc une heure et demie. La durée des cycles est variable en fonction des personnes. C'est la raison, oui, pour laquelle il est préférable d'attendre un réveil spontané. Donc vous mettez quand même le réveil si vous ne voulez pas dormir 3 heures ou 4 heures, parce que parfois, quand on dort, surtout si on manque beaucoup de sommeil, on s'endort très longtemps. Et puis ça peut constituer des siestes préventives. Vous voyez, de dormir par anticipation l'après-midi permet de rester plus vigilant au cours de travail de nuit. Donc ça, je vais vous montrer un petit tableau des siestes de nuit. À quel moment positionner une sieste éventuellement, en sachant que les siestes courtes peuvent toujours suffire pour récupérer. Alors pour qui est-ce qu'on... à qui s'adresse cette sieste? Les siestes flash, tout le monde. Voilà, c'est pas compliqué, tout le monde peut faire une sieste flash. Ça ne fait pas de mal. Vous essayez. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. En tout cas, vous avez essayé pendant 2 minutes. Mais je vous jure que se détendre pendant 2 minutes, et puis à la fin, on s'étire bien. Hein, ça fait du bien si on a dormi. Les siestes courtes, là, c'est déjà 10, 15, 20 minutes de sommeil. Vous voyez, j'ai mis pour tout, sauf les insomniaques. Pourquoi ? Parce que les insomniaques, surtout l'insomnie primaire, hein, pas l'insomnie organique avec des problèmes de thyroïde, des choses comme ça, c'est différent. Mais l'insomnie primaire, c'est l'insomnie en gros sans cause. Les gens ne dorment pas bien ou ont un mauvais sommeil ou se plaignent d'un mauvais sommeil sans réelle raison. On ne retrouve aucune raison. Peut-être une petite anxiété, hein, il n'y a pas de dépression, rien. Donc ces gens-là, on va essayer au contraire de ne pas les faire dormir du tout dans la journée pour qu'ils aient le maximum de besoin de sommeil le soir pour s'endormir quand ils vont se coucher. Parce que s'ils dorment une demi-heure ou une heure dans la journée, et ils ont tendance à le faire. Parce que comme ils n'ont pas dormi la nuit, dans la journée, ils sont fatigués. Quand ils rentrent du travail à 17h, là, ils dorment bien. Ou le matin, ils se réveillent plus tard, hein, le week-end. Donc, ils dorment à 17h en arrivant du travail. Ils prennent une heure de sommeil. Donc, 17h à 18h. Ils vont se coucher à 22h, 23h, mais souvent assez tôt, d'ailleurs, 22h. Et donc, entre 18h et 22h, il n'y a que 4 heures d'éveil. Et là, ce n'est pas assez pour avoir envie de dormir. Et quand ils vont se coucher, ils ne dorment pas. Et ça, c'est une difficulté, c'est une plainte, c'est l'insomnie d'endormissement. Donc l'insomniaque, en fait, on recommande aucune sieste, sauf la sieste flash, quand vraiment là, c'est difficile. Alors la sieste longue, ce n'est pas pour tout le monde du tout. Hein. Attention, ce type de sieste peut comporter des inconvénients. Hein. Difficulté à l'endormissement le soir et tendance à l'insomnie, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si vous faites une sieste de 3 heures dans la journée, de 13h donc à 17h, bien là ça va être long, quoi. Et puis vous diminuez votre besoin de sommeil très très fort, et le soir vous ne pourrez pas dormir. Si vous ne dormez pas, vous êtes au lit, ça vous énerve, vous vous levez, vous ne vous rendormez pas, vous allez vous coucher, etc. Vous allez vous plaindre éventuellement, donc vous avez un trouble parce que vous avez dormi dans la journée et longtemps. Alors, c'est pas forcément d'une seule traite. Hein. Ça peut être une demi-heure à midi, une demi-heure en revenant du travail, ça fait quand même une heure, même si on n'a pas pris un cycle complet. Donc là, on ne va pas recommander ça chez l'insomniaque. Hein. L'inconvénient aussi, c'est quand on se réveille, eh bien, on a cette sensation d'inertie du sommeil où là, on est un peu perdu. on a des difficultés à se repérer. Et ça, ça peut être assez long à disparaître. Il y a certaines personnes, et ça veut certainement vous arriver le matin, qui sont bien tout de suite. En 2-3 minutes, ils se lèvent, ils sont nickel. Et puis d'autres, c'est qu'après après la douche et le petit déjeuner, hein, c'est-à-dire une heure. Donc cette inertie du sommeil, c'est variable en fonction des individus. Il y en a, c'est très très perturbant. Et pendant cette période-là, vous avez des mauvais réflexes, une difficulté attentionnelle. Et surtout, vous ne pourrez pas conduire à ce moment-là. Hein. Donc il faut savoir ça. Donc on évitera ces gens qui ont cette difficulté à se réveiller. On ne va pas leur recommander des siestes longues. Et surtout, s'ils se réveillent avec la montre au bout de 3 quarts d'heure en plein sommeil profond, ils ne seront pas bien du tout. Donc on ne va pas leur conseiller des siestes longues. Hein. Et une prise de sommeil dans la journée, c'est moins de sommeil pour la nuit, je vous l'ai dit. Hein. Alors attention, ça c'est interdit pour les personnes âgées, pour les insomniaques, je vous l'ai dit, et les adolescents, qu'est-ce qu'on en fait? Alors les personnes âgées, pourquoi? Parce que, alors les personnes âgées, ça c'est à vous de décider ce que c'est qu'une personne âgée. Hein. Moi je dis pas. Donc, alors il y a seniors et ensuite personnes âgées, quatrième âge. Alors il y a des centenaires qui font plus de 25 km/h en vélo, hein, vous voyez. Donc lui, il n'est pas âgé, hein, ce gars-là. Il est très très bien. Et puis il y a d'autres à 70 ans, ils ne feront jamais de 25 km/h en vélo. Moi, je ne les fais pas. Hein. Donc voilà. Et je n'ai pas 70 ans. Donc les personnes âgées, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont dormir dans la journée facilement. Parce qu'ils manquent d'activité physique, ils vont souvent se mettre un petit peu à la pénombre, surtout en particulier dans les institutions, donc ils ne bougent pas. Peu de contacts sociaux, voire pas du tout. Il n'y a pas d'enfants qui les visitent, ou une fois tous les mois, une fois par semaine. Ce n'est pas, pas assez pour être actif. Puis si on va dans le jardin, c'est très très peu. Et encore, c'est très bien si on va dans le jardin. Donc c'est des gens qui restent isolés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé, ils dorment devant la télé pendant 1 heure, 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Donc la seule distraction, c'est les heures de repas, donc la dame qui apporte les repas à domicile ou le repas à l'institution. Donc ils ont pris 3 à 4 heures de sommeil dans la journée. La quantité globale est la même que pour tout le monde, c'est 8 heures, le besoin de sommeil. C'est en gros 8 heures, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc si vous prenez 4 heures de sommeil dans la journée, ben, vous allez dormir 4 heures dans la nuit. C'est ce que font les navigateurs solitaires, hein. C'est je dors 3 heures, je saute, je redors 3 heures, je saute, je redors 3 heures. Ils font comme ça 24 heures. Eh bien, les personnes âgées vont prendre 4 heures et la nuit, ils vont dormir 4 heures. Et en plus, ils sont en avance de phase, c'est-à-dire qu'ils se couchent plus tôt que vous. Ou on les couche plus tôt que vous. On les couche vers 20 heures. Alors, regardez bien, 20 heures plus 4 égale minuit. Donc, à minuit, ils se réveillent. Et là, ils font le foin dans l'institution ou chez eux, ils ne dorment pas. Ils n'ont pas envie de dormir à minuit ou à 1 heure ou 2 heures du matin. Quand ils se réveillent, ils n'ont plus envie de dormir. Mais ils n'ont pas envie de se lever. Parce qu'ils sont au lit, puis on se lève normalement à 7 heures, comme tout le monde, quand le jour se lève. Et quelle est la plainte à ce moment-là? C'est « je dors pas bien ». Mais ils ne vont jamais dire qu'ils dorment dans la journée. Et le médecin qui les entend, la plainte de mauvais sommeil égale insomnie, égale « je donne un somnifère ». Donc ce sont des gens en plus qui prennent des somnifères pour mieux dormir, alors qu'ils ont dormi normalement dans la journée. Donc la seule chose à faire, c'est de ne pas donner de somnifères. Ça va donc réduire les somnifères. De les activer dans la journée, si on peut, c'est ça le problème, si on peut. De les éclairer avec des lampes de luminothérapie, beaucoup, le matin très tôt, et toute la journée, si on peut, mais au moins 1 heure le matin, leur faire un peu d'activité, de l'exercice physique, hein, c'est pas du vélo, voilà, dans la journée. Si vous faites de l'exercice physique dans la journée, ben vous dormez mieux le soir. Et décaler le sommeil pour arriver à les coucher vers 22h, 23h, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et s'ils dorment devant la télé, il faut les stimuler s'ils sont chez vous, pour les gens qui gardent le grand-père ou la grand-mère. On les stimule pour pas qu'ils dorment devant la télé. Et comme ça, ils vont dormir 6 heures à peu près la nuit. Et donc de minuit à 6 heures, on est sauvé. C'est très difficile à obtenir. Donc c'est des gens qui prennent des somnifères pour rien, parce qu'ils ont un sommeil normal quand ils dorment. Mais ils dorment de manière irrégulière. L'horloge biologique est complètement déréglée. Donc il faut la re-régler. C'est très difficile. Donc les personnes âgées, il faut y faire attention, parce que ça, c'est une source de prise d'hypnotique, de somnifère très importante. Inutile. Voilà. Alors les adolescents, pourquoi? Ben, attention, c'est un problème d'éducation. L'adolescent, lui, dans la journée, en semaine, il dort pas, hein, il est à l'école, donc il ne peut pas dormir. Il pourrait peut-être faire la sieste si on l'autorisait. Hein. Il y a certains ados qui ont besoin de sieste. C'est un besoin individuel, donc il n'y a pas de raison. Il y a des ados qui ont besoin de faire la sieste. Donc il ne dort pas, mais il se couche très tard. Ou il s'endort très tard, vers 1h du matin, 2h, 3h du matin. Et c'est le week-end le problème. Parce que le week-end, il va se décaler, il va se coucher à 3, 4, 5 heures du matin, parfois 7. Et là, il dort jusqu'à 2h ou 3h de l'après-midi. Donc c'est une prise de sommeil, finalement, en dehors des heures conventionnelles. Et puis, bah, quand vous avez dormi 7 heures jusqu'à 2 heures, vous ne vous endormez pas le soir, le dimanche soir. Et donc, ils sont en... Donc, les ados, il faut leur interdire de dormir dans la journée le week-end, ou alors, parce qu'ils ont besoin quand même de compenser leur dette de sommeil, qu'ils se lèvent, mais pas à 2 heures de l'après-midi, pas à midi. Hein. Moi, j'autorise deux cycles. C'est-à-dire que s'ils se réveillent à 6h30, 7 heures du matin dans la semaine, on va les autoriser à se lever à 8h30, 10 heures maximum. C'est déjà beaucoup. Hein. Il y a des ados, ils se tolèrent pas. Hein. C'est midi, une heure. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai problème parce qu'ils sont en difficulté scolaire et ça crée des vraies difficultés scolaires. Et ensuite, ils vont être en difficulté quand ils vont travailler parce que ça va durer cette affaire. Il faudra les recaler. Donc ça, c'est de l'éducation. Il faut en parler avec eux. Ils ont le droit, l'adolescent se décale spontanément, mais jusqu'à 23h, 23h30. Au-delà, c'est pas normal. C'est la télé, c'est surtout... l'ordinateur, le téléphone portable, téléphone aux copains, la copine. Alors pour les travailleurs réguliers, ça c'est très important. Les travails à horaires atypiques, ça expose à une privation de sommeil majeure, hein, surtout les travailleurs de nuit, à une somnolence, hein, donc voilà, là, surtout lorsque les heures de travail sont comprises entre 22h et 5h. Donc là, vous avez une somnolence au travail avec un danger si vous êtes un travailleur sur un poste à risque, ça c'est clair. Et plus la privation de sommeil est importante, plus le besoin de récupération est long. Et puis, il y a des gens qui travaillent la nuit, et ça c'est fréquent, qui travaillent la nuit, qui se reposent un petit peu le matin et qui travaillent un deuxième travail le jour. Donc c'est la double journée. Ils gagnent de l'argent, mais ils se pourrissent la vie, quoi. Alors le travailleur de nuit, donc ça c'est la sieste longue compensatrice. Et c'est surtout pour ça qu'on réserve les siestes longues, c'est pour compenser une dette de sommeil ou pour adapter le sommeil dans des cas difficiles de travail posté, c'est pas simple. Et il faut l'adapter à chaque personne. On ne peut pas donner un conseil général puisque la typologie du sommeil, hein, c'est lié à chaque personne. C'est l'horloge biologique qui vous l'impose, c'est vos gènes. Mais on va essayer de respecter des grands principes. Aller au lit le plus tôt possible après le travail sans oublier de prendre un petit déjeuner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive du travail vers 6, 7 heures du matin, 8 heures à la maison. Eh bien, on va se coucher si on peut. Parce que souvent, les travailleurs de nuit, ils vont faire autre chose. Ils vont parfois emmener les enfants à l'école, etc. Parce que ben, l'épouse ou l'époux, il a été au travail. Donc, c'est des gens qui vivent décalés. C'est des vrais problèmes de société. Si vous dormez, à ce moment-là, prévenez que vous dormez. Dites aux autres, je dors. Parce que les autres, ils font du bruit dans la maison ou les voisins. Alors, pour les voisins, c'est un vrai problème dans les immeubles. Faire le noir dans la chambre, parce que la lumière, c'est, je vous le rappelle, un puissant stimulant de l'éveil. Et donc, il faut dormir à l'obscurité, mettre des bouchons dans les oreilles pour diminuer le bruit, débrancher le téléphone. Les gens n'y pensent pas, et la sonnerie de la porte. Se mettre dans des conditions de sommeil parfaites quand on est travailleur de nuit pour que cette prise de sommeil du matin soit parfaite le plus possible. Et malgré ça, un travailleur de nuit va dormir en moyenne 4 à 5 heures. 4 à 5 heures, avec un sommeil perturbé. Ce n'est pas le sommeil classique, avec du sommeil profond en début de nuit. Il y a une difficulté à dormir. Et puis, bon, on peut afficher des panneaux, mais tout ça, ce n'est pas inutile de le rappeler, parce que les gens ne le font pas, en fait. Hein. Voilà le repos compensateur. Si ceux qui se lèvent tôt, vous voyez, ben, ça, c'est les gens donc, qui ont besoin d'aller au travail assez tôt. Ben, ils doivent dormir quand ils reviennent du travail. Et je vous ai fait ce petit panneau. Alors, c'est compliqué, mais c'est juste pour vous donner les grands principes. Parce qu'en fait, ce diaporama, il est ensuite, si vous voulez, il est sur le site de Mendès France. Vous pourrez le regarder de nouveau. Vous voyez, là, il y a une période donc, de travail, hein, ici. Ici, la période de travail. Ça, c'est la période de sommeil. Il y a les repas, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis là, on propose la sieste à ce moment-là, entre 14h et 16h. Ça, c'est une personne qui a travaillé toute la journée, enfin, du matin, et qui travaille jusqu'à à peu près 13h. Et ça, c'est une zone, normalement, où il est éveillé, là. Hein. D'accord ? Il est éveillé assez loin de la durée de son sommeil de soir. Pourquoi ? Parce qu'il faut garder le maximum d'éveil entre la période longue de sommeil et la sieste. Donc là, il ne va pas dormir assez parce qu'avant 22h, de toute façon, il ne pourra pas dormir. Il n'aura pas envie de dormir avant 22h. Il va devoir se lever tôt pour aller travailler. Donc, il lui manque de sommeil. Donc, on lui propose une sieste en début d'après-midi au moment où c'est favorable. Et ensuite, il reste éveillé. Donc ça, c'est une sieste longue, là, vous voyez. C'est une sieste longue. S'il travaille l'après-midi, c'est le travail de... Si vous voulez travailler, si on propose un jour le choix entre le matin, l'après-midi et le soir, ou la nuit, choisissez l'après-midi. C'est nickel. Vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous travaillez l'après-midi. C'est-à-dire que là, vous voyez la période de sommeil ici. La personne se lève à son heure, comme elle veut, puisqu'après, elle est éveillée chez elle. Donc là, ensuite, elle va travailler l'après-midi. Donc éventuellement, elle fait une petite sieste. Si elle en a envie, ce n'est pas obligatoire. Mais là, elle est au travail, elle va s'arrêter à 21h. Pas 21h ou 20h30, 21h, 21h30. Il n'y a pas de difficulté, vous pouvez vous coucher à 22h30, 23h. Vous allez faire une nuit normale. Et les gens qui travaillent l'après-midi, moi j'ai fait des enquêtes dans les entreprises sur des gens qui travaillent l'après-midi, le matin et le soir. Ceux qui sont en rotation disent tous, c'est l'après-midi qu'on préfère. Sauf les gens qui travaillent la nuit et qui trouvent un gain financier. La motivation financière permet de faciliter les choses. Si je travaille la nuit, bon là, le travail est là. Donc quand on revient, on dort. Et puis on fait une période d'éveil. On fait une sieste ici, longue, qui va être suffisamment décalée pour pouvoir dormir. Parfois, certains vont essayer de prolonger, mais ils ne dorment pas bien. Parce que y a de l'animation dans la maison. Donc ici, moi, je conseille de décaler. Et cette période de sieste, même peut-être juste avant d'aller au travail, pour permettre d'entamer une période de travail de nuit efficace. Et là, quand on est de repos, si vous êtes de repos et que vous avez des horaires atypiques, il faut dormir avec un rythme normal, des heures de sommeil régulières, le coucher et lever, comme si vous étiez jamais en rythme de travail à horaires irréguliers. Récupérez tout de suite, dès le premier jour. Ça dure, si vous avez 3-4 jours de repos, dès le premier jour, on prend un rythme normal. Parce qu'autrement, on va se décoller comme un adolescent. On profite du premier jour pour faire une grasse matinée. Donc le soir, on n'a pas envie de dormir. Donc on se couche à 2h du matin, on regarde la télé. Donc le lendemain matin, on se lève tard et on se dérègle. Et quand on reprend le travail 3 jours après, on est en difficulté. Donc on fait comme si on allait à l'étranger, si on allait dans un voyage transméridien à New York. On s'adapte tout de suite à la période, même si elle est courte, 3 ou 4 jours. On respecte des horaires de sommeil très réguliers, comme si on avait un travail régulier. Et c'est le plus facile. Alors, comment faire la sieste? Vous voyez, il y a tout un tas de solutions. Pour entamer la sieste, c'est ça le problème. Parce que c'est en fait l'entame de sieste qui est difficile, la plupart des gens, c'est ça la difficulté. Quand vous dormez, c'est bon, vous dormez, vous avez réussi à vous endormir. Mais ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est m'endormir, justement. Donc, si possible, pour les siestes courtes ou longues, dans la pénombre, l'obscurité pour les siestes longues, pour les siestes flash, vous faites ce que vous voulez, parce que vous avez la fatigue, vous dormirez, c'est un besoin fort, et là, vous dormirez. Se mettre au calme, très important, parce que le moindre bruit va vous réveiller, surtout pour les siestes courtes, vous êtes en sommeil léger. Donc, le moindre bruit vous réveille. Confortablement installé. Alors, si vous avez le hamac et le cocotier, ça, c'est encore mieux. Là, ce n'est pas la pénombre, évidemment, mais il y a de telles conditions que vous dormirez quand même. Se détendre et oublier. Là, c'est là où vous allez peut-être utiliser des techniques de respiration pour vous détendre ou pour oublier que vous essayez de dormir. Donc, vous allez attirer votre attention sur autre chose. Alors, c'est souvent la respiration qui est proposée. Si vous voulez essayer, respirez lentement et profondément. Ça ne veut pas dire de faire une hyperventilation. On respire lentement et profondément. Mais si vous respirez profondément et rapidement, vous allez hyperventiler et vous allez modifier à ce moment-là votre métabolisme, notamment de l'acidité du sang en quelque sorte, et ça c'est pas très bon, le taux de... Donc il faut vraiment respirer plus lentement, profondément, prendre conscience de sa respiration et ralentir son rythme. Et c'est ça le secret. Et vous comptez pas les moutons. Ceux qui veulent compter les moutons, c'est très bien aussi, mais c'est pénible. 1, 2, 3, il y a toujours un mouton qui passe d'un fond à l'autre ensuite. Et puis, on n'arrive plus à les compter, il faut recommencer. Donc, sa respiration, voilà. Et on peut même essayer de faire prendre conscience de son rythme cardiaque, du battement de son cœur. Essayer de le ralentir. Il y a des gens qui arrivent, par la volonté, ralentir son cœur. Il y a même des gens qui arrivent à ralentir leur température centrale, à condition de voir le chiffre. C'est pas facile de faire autrement, mais si on met un capteur de température au doigt, on demande à une personne, faites baisser ce chiffre. Au doigt, c'est 30 degrés, la température, c'est pas 37. La personne voit 30 degrés, on lui demande de baisser ce chiffre, on attend 10, 15, 20, 30 secondes, 29, 29,9, 29,8. Et tout le monde peut le faire, hein, c'est assez impressionnant. Mais avec un petit entraînement. Bon, vous pouvez donc prendre conscience de vos éléments végétatifs, je dirais. Hein, de son rythme, en général, faire durer l'expiration deux fois plus longtemps, c'est à vous un peu d'adapter. Inspirer. Et donc on inspire par le nez, on expire par la bouche ou pas. Il y a des techniques. Se concentrer, en quelques minutes, ça a un effet apaisant et ça, le sommeil peut arriver. Alors il y a différents types de respiration. La plus efficace pour le sommeil, hein, c'est la respiration qui se fait par le ventre, c'est-à-dire par l'abdomen, c'est-à-dire par le diaphragme. Pour les musiciens qui jouent de la trompette, hein, ils savent utiliser le diaphragme, ou les chanteurs utilisent le diaphragme. Donc c'est le diaphragme, c'est, si vous le contractez, évidemment, ça, vous avez une respiration, le diaphragme descend, ça inspire. Quand le diaphragme se contracte, en fait, il descend. Ça repousse les viscères et vous avez le ventre qui se gonfle. Hein. C'est très efficace parce que le diaphragme, c'est le muscle inspiratoire principal. C'est le muscle qui domine dans la respiration. Et donc, vous utilisez celui-là. Et puis ça vous permet de bien respirer. Les alvéoles s'ouvrent très, très grandes. Et puis, vous avez un taux d'oxygène qui augmente. Et tout, vous êtes parfaitement reposé. La respiration au niveau des côtes, donc il y a aussi le thorax. Ça, c'est la respiration en écartant comme ça bien, hein, le thorax. C'est moins efficace sur le plan ventilatoire, mais c'est quand même pas mal. Voilà, on utilise alors la partie moyenne du poumon. Et la respiration haute, claviculaire, c'est les épaules. Donc vous avez trois niveaux de respiration. La moins efficace, c'est les clavicules. C'est des muscles inspirateurs accessoires. C'est pas efficace avec les muscles du cou. Les muscles du thorax sont efficaces. Et le plus efficace, c'est l'abdomen. Hein, et ça repose beaucoup. Alors il y a des techniques, moi je vous ai donné celle-ci, et vous pourrez l'essayer, c'est la technique dite du carré. On inspire, on compte, hein, faut savoir compter jusqu'à 4. Donc ici, inspiration et je bloque. Une seconde, j'inspire. J'attends une seconde bloquée en haut, hein, j'inspire au maximum. Je stoppe une seconde, j'expire. Je bloque une seconde et je recommence. Et ainsi de suite. Et vous faites ça. Et si vous pensez à ça tranquillement, vous ne pensez pas à dormir. Et vous oubliez vos soucis. Et ça, c'est très, très, très bien. Hein, et la respiration abdominale pour la sieste, c'est très efficace. Et ça a un effet relaxant et anti-stress. Voilà. Alors, vous pouvez les mélanger. Hein, faire abdomen, ensuite thorax. Et puis comme ça, vous êtes très bien et ça soulage. Et c'est très, très, comment dire, très utilisé, hein, par la sophrologie. Toutes les techniques de relaxation vont utiliser la respiration. Beaucoup, en tout cas. Alors, le réveil, ça, c'est le problème. Comment se réveiller d'une sieste? Il y a plusieurs techniques. Je me réveille spontanément. Je me suis couché à 13 heures et je vais attendre. Ça peut durer jusqu'à 19 heures. Donc, ça, c'est pas bon. Donc là, vous allez ensuite, vous ne pourrez pas vous réveiller. Donc, il faut, si vous avez le sentiment que vous allez dormir longtemps et que vous ne voulez pas, il faut mettre le réveil. Si vous vous couchez à 14 heures, vous anticipez un petit peu. Si vous voulez dormir une heure et demie, vous mettez 15h, 15h30. D'accord ? Alors, il y a tout un tas de techniques de réveil qui réveillent tout doucement. Il y a des montres qui vous réveillent quand vous commencez à bouger. Ça, je n'ai jamais testé. Si ça marche, tant mieux, vous pouvez les utiliser. Surtout, pas de réveil brutal pour les siestes longues. Hein. Pour les siestes courtes, on peut le faire parce qu'on est en sommeil léger, donc il n'y a pas l'inertie du sommeil. Donc on met, si on veut dormir 15 minutes dans la voiture, par exemple, on est fatigué d'une longue route, on veut dormir 15 minutes, le rendez-vous, il y a encore du temps, on peut dormir avant d'avoir l'accident. Donc, on dort 10 minutes, 15 minutes. Là, sommeil ne va pas être, c'est pas perturbant. Par contre, pour le sommeil, pour la sieste longue, si. Alors, ne pas se lever brusquement d'une sieste longue en particulier. La phase de réveil doit se faire progressivement parce qu'il y a ce problème d'inertie du sommeil. Vous êtes en difficulté. Autrement dit, avant le sommeil, on se prépare un petit peu. Hein, pour la sieste, c'est pareil. Hein. Si vous êtes très, très actif, je ne sais pas ce que vous faites hein, comme métier, mais si dans votre métier, vous êtes très actif à la fois aussi bien sur le plan physique qu'intellectuel, vous vous arrêtez et dites « je dors », non, ça ne marchera jamais. Donc, même pour une sieste courte, même pour une sieste flash, on s'arrête au moins quelques minutes avant de décider de dormir. Donc si vous voulez décider de faire la sieste flash, on s'arrête. Et puis, on sait que ça ne surviendra pas avant 2-3 minutes. Il faut se détendre. Hein. Alors pour les siestes longues, c'est pareil. Faire quelques respirations profondes et lentes, vous pouvez compter. Hein, des étirements au début de la sieste, mais surtout à la fin. ça fait du bien de s'étirer une fois qu'on a bien dormi. On bâille, c'est que le bâillement, c'est pour maintenir l'éveil. Et l'étirement, en fait, quand vous vous étirez, ça s'appelle la pendiculation. Vous avez un site merveilleux fait par le docteur Waluzinski. Si le bâillement vous intéresse, vous allez sur ce site. C'est lebâillement.com. Vous avez tout sur le bâillement, scientifique. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des photos. Je vous le conseille. Il y a de quoi lire. Hein, c'est énorme. Et vous verrez, la pendiculation, c'est le fait de quand vous bâillez, vous étirez comme ça. Et en s'étirant, ça permet de se ventiler les poumons. Et là, on est franchement très, très bien. Alors, il y a quand même des inconvénients dans la sieste. Ça concerne essentiellement les siestes longues. Ben, je vous l'ai dit, l'endormissement, pas de sieste, si insomnie, modérée ou sévère. Hein. Les gens qui sont insomniaques, pas de sieste. Alors, l'insomnie modérée, l'insomnie légère, c'est moins gênant. On peut faire des siestes courtes. Les siestes flash, tout le monde peut les faire, y compris l'insomniaque sévère, parce que ça, c'est pour contenter un besoin de sommeil immédiat. Et ça, c'est très important de pouvoir les faire. Parce que si les siestes longues, c'est l'inertie du sommeil, le réveil parfois difficile. Hein, ça c'est privilégier les siestes courtes. On recommande, nous, en médecine du sommeil, surtout les siestes courtes. La sieste flash, vous la faites ou la faites pas, mais ça c'est un besoin personnel. On peut la recommander aussi, mais la sieste courte, 10-15 minutes, c'est celle qui est le plus recommandée. En dehors des horaires de travail atypique, hein, parce que pour les horaires de travail atypique, on va fixer avec la personne le type de sieste et la prise des repas aussi. Vous savez que la prise des repas régulière, ça règle votre horloge biologique aussi. Le matin, le midi, le soir, 10 à 15% de l'horloge biologique est réglée par la prise des repas. Donc un ado qui grignote dans la journée, ou quelqu'un qui grignote dans la journée, ou qui ne mange pas, ou qui ne mange qu'un repas, c'est pas bien. L'horloge biologique se dérègle. Et donc vous avez des troubles digestifs uniquement liés à ça. Et donc, si vous avez des troubles digestifs, mauvaise constipation, diarrhée parfois, douleur abdominale, etc., qui ne passent pas, regardez si vous mangez correctement, régulière, et si vos repas ne sont pas sautés. Alors, chez les ados, c'est le problème de ce positionnement de ces siestes avec un retard de phase, avec des endormissements extrêmement longs. Donc, pas de sieste longue si le rythme de vie est régulier. Vous n'avez pas besoin de dormir pendant une heure et demie. Si vous dormez, votre quantité de sommeil correcte. Si vous couchez à heure régulière, vous levez à heure régulière. Ça provoque l'insomnie la nuit suivante. Et pas de sieste longue non plus en cas d'insomnie primaire. Ça, c'est... Alors, les erreurs à ne pas commettre, hein, ne pas compenser une dette de sommeil, ça, c'est vraiment une erreur. Vous êtes en dette de sommeil majeure. Vous travaillez la nuit et vous ne dormez pas le jour. Alors là, vous êtes à risque et vous allez avoir de grosses, grosses difficultés. Et la double journée, ça, c'est des gens qui travaillent la nuit ou le soir ou le matin et puis qui peuvent avoir du temps libre, en quelque sorte, hein, entre guillemets. Donc, il faut savoir récupérer et dormir la quantité. Trop dormir dans la journée, c'est pas bon non plus. Je vous l'ai expliqué pour les personnes âgées, mais c'est vrai pour tout le monde. Hein. Ça, c'est vrai chez les gens qui sont un peu dépressifs. Ils ont tendance à rester inactifs, au lit parfois. Hein, si vous êtes au lit sans dormir, l'organisme croit que vous dormez, surtout si c'est au noir. Hein, donc il va tout faire pour vous faire dormir. Hein, parce que vous êtes allongé dans le noir, vous ne dormez pas normalement, mais là vous êtes dans des situations où le sommeil peut apparaître. Hein, et ne pas rester au lit si vous ne dormez pas. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, vous restez 10 heures de sommeil, 10 heures au lit, vous êtes 2 heures au lit de trop. Et les gens qui sont trop longtemps au lit, ce n'est pas mieux que les gens qui ne sont pas assez longtemps au lit. Même sans dormir, hein. C'est pas parce que vous ne pouvez pas dormir plus que ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de 9 heures de sommeil ou 7 heures, ne restez pas 15 heures au lit, vous ne dormirez pas 15 heures, vous dormirez 7 heures, 8 heures ou 9 heures. Donc ça, c'est très très important. Hein, cet état. Donc si par contre, si vous avez un long sommeil nocturne, si vous dormez, vous avez l'impression de bien dormir, et si vous avez en plus des siestes dans la journée, que vous êtes toujours somnolent, ça c'est vraiment pas normal. Hein. Il y a des pathologies comme ça, donc je vous en ai cité plusieurs. Le syndrome d'apnée du sommeil, voilà. Les narcolepsies, l'hypersomnie idiopathique, les mouvements périodiques des jambes la nuit. Il y a différentes maladies qui donnent des troubles du sommeil comme ça. Où on a l'impression de dormir, on dort, mais le sommeil est de très mauvaise qualité. Alors on peut évaluer cette somnolence par un score, c'est pas... Alors les facteurs qui influencent la sieste, qui favorisent la sieste, se relaxer, être calme, le silence... Essayer d'éliminer ses soucis provisoirement, ça c'est plus dur en fait. Les facteurs qui majorent le besoin de sieste, les troubles du sommeil, je viens de vous les citer, hein, l'apnée, les mouvements périodiques, la dépression, ça c'est fréquent, les gens qui dépriment, Souvent, un des signes, un des premiers signes de la dépression, c'est l'insomnie. Les gens ne dorment pas bien. Chez l'ado aussi, hein. Des adolescents ou des jeunes, des enfants, enfin, surtout des ados de 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, qui se plaignent d'insomnie, ce n'est pas normal. Alors, s'ils ont un rythme de sommeil très irrégulier, mais l'insomnie, c'est souvent chez l'ado le premier signe de la dépression. Et les psychiatres, les pédopsychiatres connaissent bien ça. Donc, un gamin qui se plaint d'insomnie, attention, derrière, ça peut être une dépression. Et derrière la dépression, c'est un risque suicidaire. Parfois. Donc, il faut y penser. Hein. Un ado qui n'est pas bien dans sa peau, qui ne dort pas bien, c'est un danger, hein, pour lui. Donc, l'alcool. Alors, l'alcool, bien sûr, ça fait dormir, ça endort. Mais le sommeil est de très mauvaise qualité par la suite. Et vous allez vous réveiller, vous aurez un sommeil trop court. Donc ça, c'est un faux ami, l'alcool. Et puis le manque de sommeil, évidemment, ça, c'est le plus fréquent, hein. Le manque de sommeil, parce qu'on a tous une dette de sommeil chronique, et ça favorise le besoin de sieste. Qu'est-ce qui s'oppose à la sieste? Tout ce qui est stressant, hein, la vie active, tout ce qui va vous exciter l'esprit, l'activité physique trop tardive le soir, ça vous empêche de dormir. Mais ça, c'est évidemment, si ça vous empêche de dormir, ensuite ça vous provoquera une somnolence dans la journée. Donc être excité dans la journée, vous savez que si vous avez une activité physique, vous pourrez moins dormir. Les stimulants, le tabac, le café, hein, ça c'est important. Si vous prenez une tasse de café par jour le matin, ça ne jouera pas. Si vous prenez une tasse de café le midi, ça ne jouera pas. Une tasse de café, c'est 200 mg de caféine, hein. La caféine, pourquoi ça maintient éveillé? Parce que ça s'oppose à l'adénosine qui se fixe sur nos neurones, l'adénosine. Et donc le café se fixe à la place et l'adénosine ne peut pas agir et ça vous éveille. Hein, c'est un éveillant majeur. Et donc quand vous faites une pause café sur l'autoroute ou sur la route, c'est utile. Hein. Mais ça marche que chez 75% des gens. Il y a un quart des gens qui ne sont pas sensibles à la caféine. Donc ça ne sert à rien pour eux. Mais si vous prenez 10 tasses de café le matin, parce qu'on dit toujours pas de café après 16 heures, mais si vous en prenez 10 le matin, c'est clair que le soir, vous ne dormirez pas non plus. Hein. Donc attention à la quantité de café que vous prenez le matin en pensant bien faire, parce que vous n'en prenez pas l'après-midi ni le soir. Donc c'est 2-3 tasses de café maximum dans la journée. D'accord ? Et le tabac avec la nicotine. Alors si vous avez des siestes trop faciles dans la journée, souvent il faut penser à une mauvaise hygiène de sommeil, hein, l'irrégularité des rythmes de sommeil, des siestes excessives dans la journée, ça c'est pas normal, hein, vous en faites une le matin, une le midi, une le soir, et vous avez toujours envie de dormir. La mauvaise hygiène de sommeil, c'est le café et l'alcool, voilà, je vous l'ai dit. L'activité physique et mentale le soir, l'association avec des choses qui vous empêchent de dormir, la télévision, la lecture, le portable, l'ordinateur, etc. Et puis, si vous voulez avoir des siestes efficaces dans la journée, la seule vraiment efficace, c'est celle de début d'après-midi. Normalement, vous n'avez pas besoin de sieste en dehors de ça. Donc, si vous avez une bonne régulation de votre sommeil, si vous dormez bien en faisant tout ça, de l'exercice donc, dans la journée, avec des horaires de sommeil réguliers, évitez tout ça, le café, l'alcool, le repas léger le soir, parce qu'un repas lourd ou abondant, ça va vous faire digérer, donc ça va dégager de l'énergie, ça va vous réchauffer et ça vous empêchera de dormir, hein, 3-4 heures avant de dormir. Réglez ces problèmes avant d'aller au lit, parce que si vous réglez les problèmes au lit, c'est sûr que là, vous êtes actif intellectuellement, donc ça c'est de la rumination. Donc ne ruminez pas quand vous êtes au lit, et ne travaillez pas avec votre ordinateur au lit. Pas recommandé du tout, parce que c'est clair. Diminuer le temps passé au lit pour l'insomniaque. L'insomniaque passe trop de temps au lit. Il dit qu'il ne dort pas quand il est au lit. Alors la consigne, c'est sortez du lit. Oui, mais je voudrais dormir. Voilà. Oui, mais ne dormez pas. Sortez du lit. Donc ça, c'est important, mais il y a une technique. Hein. Évitez d'essayer de dormir à tout prix, hein, se lever si nécessaire. Et ça, très très important, avoir une chambre idéale. Alors un jour, si vous voulez, je ferai le topo sur la chambre idéale. Mais il faut y penser. Alors il y a des choses simples, surtout pour les enfants. La lumière, pas de lumière, pas de lumière, donc l'obscurité, parce que vous avez vu, ça rythme notre horloge biologique. Pas de bruit, une décoration agréable. Le lit, comme vous voulez, mais bien fait. Le matelas, pas trop mou, pas trop dur, comme vous voulez. Mais s'il est trop mou, ça fait mal aux dos. S'il est trop dur, Ça fait mal, ça, les appuis. Parce que vous savez, vous vous tournez de temps en temps. Si vous vous tournez, c'est parce qu'il y a des appuis sur la peau. C'est une ischémie. Hein. Enfin, la peau est mal vascularisée à ce moment-là. Donc, trop dur, ça vous réveille. Matelas trop dur, ça vous réveille, même si vous n'avez pas conscience. Donc, essayez de trouver le bon matelas. Et puis, plein de choses comme ça. La température, c'est pas bon. Trop chaud, trop froid, 18, 20 degrés. Les animaux dans la chambre. Les enfants dans la chambre. Le co-sleeping, hein, le nourrisson. Il est bien jusqu'à 6 mois dans la chambre, au-delà, à la porte. Et voilà. Donc, il faut être rigide avec tout ça. Et tout ça, ça fait des mauvaises conditions de sommeil, des gens fatigués le lendemain, qui ont envie de dormir et qui font des siestes. Donc, sachez en fait que la sieste, normalement, on ne la fait pas. Sauf en tout début d'après-midi, et des siestes courtes de 10 à 15, 20 minutes. Et je vous remercie. Et puis, voilà des exemples que vous pouvez méditer. Et je réponds à vos questions. Vous avez des questions ? Oui, là-bas.
Oui, je voudrais savoir comment on peut déterminer le temps de sommeil dont on a besoin.
Alors, la meilleure façon, c'est de profiter d'une période de vacances. Donc, si vous avez au moins 15 jours de vacances, le mieux, c'est 3 semaines, parce qu'on va prendre la période intermédiaire, parce que la dernière, après, c'est... Donc, c'était de reprendre le travail, on risque de ne pas dormir pareil. Mais c'est... Donc, la première semaine, on ne la prend pas en compte parce qu'on récupère de la dette de sommeil chronique qu'on a. On dort 6 heures au lieu de 8. Si on a besoin d'une durée de sommeil pendant les vacances, a priori, si le sommeil est là, on va dormir la quantité dont on a besoin puisqu'on veut profiter de ses vacances. Du loisir, si on veut aller à la plage, on va à la plage. Etc. Bon endroit pour faire la sieste, la plage. Donc, comment on fait ? On va se coucher à une heure donnée, 23 heures, et on regarde à l'heure à laquelle on se réveille le matin. Et on le note, on fait un agenda du sommeil. Alors, vous regarderez sur Internet, agenda du sommeil, sur le site de l'INSV, il y en a, donc il n'y a pas de problème. Et vous notez ça tous les jours, pendant une dizaine de jours. Et vous regardez le bilan. Alors, les horaires de sommeil, de lever et de coucher, vont être très irréguliers pendant les vacances. Parce que on profite des soirées. Hein. Là, c'est l'été, en général. Et donc, les jours sont longs et on se couche tard. Et puis, l'aube arrive assez tôt, on va se lever tôt. Mais non, pas du tout. On va dormir, on va allonger son temps de sommeil d'environ une heure. Hein, une heure à une heure et demie, voire deux heures, pendant les vacances. Et donc, si vous êtes à 6 heures, vous passerez à 8 heures, etc. Mais c'est comme ça. Au bout de 8-10 jours, vous regardez et vous comptez. Donc, quand vous vous couchez, vous notez l'heure. Quand vous vous levez, vous notez l'heure à laquelle vous vous êtes couché. Et le matin, vous notez ça le matin uniquement, et vous assurez les zones de sommeil pendant cette période. Donc si vous êtes couché à 23 heures, vous vous endormez à minuit, entre 23 heures et minuit, vous ne comptez pas. Mais ça, il faut le noter le lendemain matin. Et tous les jours, vous le faites. Et après, vous additionnez votre temps de sommeil et vous le divisez par le nombre de jours. Ça vous donne un temps moyen de sommeil, ça vous donne votre durée de sommeil. Qui vous est. Mais un bon moyen aussi, c'est de savoir si vous êtes bien reposé le matin. Quand vous vous réveillez, si l'horloge est bien réglée, vous vous réveillez spontanément le matin, hein, vers 8h ou 7h du matin, y compris pendant les heures de travail. Si vous êtes reposé, en général, c'est que là, vous avez dormi assez. Si au contraire, c'est le réveil qui vous réveille, c'est la sonnerie du réveil qui vous réveille, là, c'est que vous manquez de sommeil. Normalement, vous êtes réveillé avant le réveil. Votre horloge interne anticipe sur la durée de sommeil que vous avez à faire. Et il vous est probablement arrivé d'avoir besoin de vous réveiller à 4 heures du matin pour prendre le train ou autre, et d'avoir la surprise de constater que vous vous êtes réveillé avant l'heure du réveil. On pense que l'horloge biologique règle le système, elle anticipe sur le nombre de tours qu'elle doit faire, probablement en accélérant le fonctionnement. Donc elle ne va pas prendre une période d'une heure, mais l'heure va durer une demi-heure, par exemple. Le nombre de tours est le même, mais elle accélère les heures. Et donc, vous vous réveillez à la bonne heure. Donc, ça, c'est un autre moyen de savoir si on se réveille, si l'horloge est bien réglée, en tout cas. Mais profitez des vacances.
Oui, bonsoir. Je me reconnais beaucoup dans tout l'exposé que vous avez fait. J'aurais beaucoup de choses à dire et je ne sais pas par où commencer. Je voudrais dire que depuis que je suis rentré dans l'UTEL, c'est bien. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'UTEL.
Allons-y.
C'est l'univers du temps enfin libéré. La retraite, quoi. Parce que, en fait, notre société, elle nous,
ça
impose,
s'améliore en général.
Elle nous impose de vivre à un rythme qui n'est pas forcément celui qui nous correspond. Moi, je sais que je suis quelqu'un du matin. Ma journée commence à 4 heures du matin, systématiquement. Et depuis que je peux le faire correctement, ça va très bien, ou mieux. Par contre, effectivement, si j'ai besoin d'une sieste ou d'un moment de récupération dans la journée, ça peut être une sieste courte ou des fois longue, suivant je suis vraiment en déficit de sommeil ou pas. Je suis aussi appareillé parce qu'on a trouvé que j'avais des apnées de soleil,
de sommeil.
Donc je suis appareillé avec une machine air comprimé, donc, hein, des nouvelles machines qui fonctionnent bien, qui ne font pas de bruit. Donc ça améliore quand même, mais ça fait pas tout. Et quand même, une des conséquences, moi, que j'ai eu le plus pénible dans ma carrière, c'était l'endommagement au volant. Et ça, on a beau lutter, on a beau dire il faut s'arrêter, quand il fallait bosser à 8 heures à Angoulême ou à 100 km de la maison, on a des impératifs. Et si on a la possibilité d'avoir le transport en commun, c'est très bien, parce que là, on peut se libérer. Mais quand on est au volant d'une voiture, c'est un peu plus délicat pour arriver à l'heure le matin. Voilà, bon, je sais pas, j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais
non, mais votre expérience est tout à fait intéressante parce qu'elle est vécue par beaucoup, beaucoup de gens. Le manque de sommeil parce qu'on est obligé d'aller au travail. La lutte au volant alors qu'on a envie de dormir. Et franchement, c'est l'endormissement au volant, c'est la première cause d'accident de route, avant l'alcool et la vitesse. Donc ça, on ne le dit jamais à la télé ou très rarement. Donc c'est la première cause d'accident. Donc il faut savoir parfois anticiper le réveil et dire, bah si... partir un quart d'heure avant et prendre peut-être ce besoin de sieste ou cet arrêt obligatoire s'il arrive à avoir le temps de le faire. Donc ne pas partir au dernier moment. Et surtout pour les vacances, ne pas partir à minuit ou à 1 heure du matin. Donc ça, c'est conduire la nuit, c'est une erreur en fait. Donc voilà. Bon. Et puis en fait, pour le problème des apnées, mais là, c'est la qualité du sommeil qui est perturbée. Et je n'ai pas compris dans votre exemple, enfin dans votre situation, vous vous levez à 4 heures du matin, mais vous vous couchez à quelle heure ?
Alors moi, je suis né à la campagne, à une époque où il n'y avait pas la télévision. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, j'ai plus de femmes.
Vous couchez tôt alors ?
Et plus de télévision, donc je suis tranquille. Je me couche relativement tôt, surtout l'hiver. C'est plutôt du côté de 9h.
Et ça vous fait 7h de sommeil, quoi, c'est bien ?
Non, parce que oui, enfin, ça va dépendre. Mais je me lève quand même, réveille quand même la nuit. J'ai plusieurs réveils la nuit. Avec celui de besoin d'uriner, aussi, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais c'est souvent lié à...
Là, c'est dans un cadre pathologique.
Voilà. Et donc, oui, moi, je me couche comme les poules, comme on disait à la campagne. C'est-à-dire que je me couche. J'essaie d'oublier un peu les soucis en me disant que demain, ça va aller beaucoup mieux. Et à 14h du matin, effectivement, les problèmes que je n'avais pas résolus le soir sont en partie résolus le matin. Et j'ai un plaisir énorme à travailler le matin. Et un déplaisir à travailler. Et l'après-midi, vous dites que le meilleur moment de travail est pour l'après-midi. Moi, je dis non. L'après-midi, moi, c'est la sieste digestive.
Le début de l'après-midi.
Et puis, à la limite, le loisir plutôt que le travail. Quoi.
Enfin, ça, c'est des cas en général. Mais le début de l'après-midi, c'est enfin, disons, entre 13h et 15h. C'est là où la baisse de vigilance est importante. Mais ça peut être à 16h. Mais... si vous vous couchez à 21h, 22h et que vous dormez juste avant, c'est pas l'idéal.
Oui, et puis je voudrais quand même dire, vous avez parlé souvent des soucis, des machins comme ça. C'est vraiment le truc qui perturbe le sommeil. On a beau essayer d'avoir des techniques, machin, choses et tout. Si on a les soucis en tête, on n'a pas une bonne qualité de sommeil, ça c'est clair. Et puis quand même, bon, la télé qui oblige les gens à être prêts le soir pour ne pas rater l'émission et tout, avec tout ce que ça cogite dans la tête, je veux dire, c'est pas très sain non plus à mon avis.
Vous avez entièrement raison. Je peux pas. On est tout à fait conscient de ça. Bon, ceci dit, il ne faut pas non plus priver les gens de loisirs. Parce que, voilà. Donc, il faut adapter. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment jouer, mais il faut s'adapter. Par exemple, le rythme de travail. Alors, peut-être ça viendra, parce que maintenant, il y a des facteurs reconnus, comme quoi le travail de nuit, c'est un élément qui est à risque de cancer. Je ne sais pas si vous le savez, ça, mais en particulier chez la femme. Il y a un risque augmenté de cancer du sein chez la femme lorsqu'elle travaille la nuit, au moins pour une période de 5 ans. Parce que ça, tout ça, c'est en train de se... Donc, il y a des risques qui commencent à être mis en évidence par le travail posté ou le travail irrégulier, en particulier le travail de nuit, parce que tous les autres n'ont pas été... C'est beaucoup très, très difficile à apprécier. Donc, peut-être que ça fera changer les esprits et le raisonnement sera différent. Mais avant, de changer les horaires de travail de nuit, de matin et de soir, je pense qu'il y a quelques années encore à venir. Donc il faut s'adapter. Hein. Donc il faut adopter des stratégies. La sieste flash est une stratégie pour passer un moment très difficile. Franchement, vous pouvez essayer. Ça peut se faire n'importe où. Vous vous isolez 3 minutes. Éventuellement, vous allez dans les toilettes. Vous pouvez dormir dans les toilettes. Moi, je connaissais quelqu'un. Il allait dans les toilettes. Hein. Il était chargé d'animer des réunions, mais il dormait pendant les réunions. C'était l'animateur, hein, donc ça devient difficile quoi, hein, de dormir quand vous animez quelque chose. Donc à tel point hein, qu'il allait dans les toilettes pour dormir 2-3 minutes. Pas pour aller aux toilettes, hein, mais pour dormir. Vous voyez la gravité de la situation. Donc s'il est au volant, si cette personne est au volant de la voiture, elle doit s'arrêter impérativement. Et ne pas lutter, parce que le sommeil, quand il arrive, il ne vous prévient pas. Vous sentez l'endormissement, mais vous sentez le besoin de sommeil arriver très très fort, mais le moment où vous vous endormez, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas à quel moment vous allez vous endormir. Vous ne pouvez pas deviner à quel moment vous allez vous endormir. Vous pouvez dire, je vais m'endormir dans une minute pile. Ça, ce n'est pas possible. Autre question ?
Bonsoir. Merci pour votre présentation bien illustrée. J'ai bien aimé, entre autres, la photo du travailleur à la chaîne, ou plutôt du siesteur sur la chaîne. J'ai aussi entendu parler d'une personne qui faisait la sieste dans les WC très brièvement, parce que c'était le seul endroit dans l'entreprise où elle pouvait se reposer. Il me semble que c'est au Japon où il y a des espèces de compartiments dans lesquels le personnel, dans les entreprises, les usines, peut se couler pour la sieste, et c'est carrément instauré. Ici, on n'en a pas parlé, mais c'est souvent perçu comme être un peu feignant que de faire la sieste. Donc, la résistance est peut-être à ce niveau-là. Et quand vous parliez d'incidence du sommeil sur la santé à plus ou moins long terme, 5 ans par exemple, pour une femme qui travaille en horaire décalé, est-ce qu'il y a une plaidoirie de vos collègues, de vous-même ? Comme il y a eu des projets de registre du cancer dans chaque département pour voir des corrélations avec tel ou tel facteur, ça vaudrait le coup, dans le cadre des différents types d'emplois, d'avoir ce genre d'études pour le faire valoir dans les conditions de travail par rémunération en plus ou retraite plus précoce, etc.
Oui, il y a des travaux qui sont faits là-dessus, hein, sur les conditions de travail, en particulier le retentissement sur le sommeil, mais ça commence juste en fait. Hein. Les études qui sont sorties et qui ont été maintenant identifiées, ça porte sur un très très grand nombre de travailleurs. C'est sorti aux États-Unis parce qu'il faut des très gros moyens. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants. Il n'y a pas que le travail de nuit. Il y a d'autres éléments, votre vie en particulier, que si vous fumez, si vous buvez, il y a tout un tas de situations différentes. Donc c'est extrêmement difficile à mettre en évidence. La durée, c'est difficile aussi. Il y a des gens qui travaillent de nuit pendant une semaine, ensuite ils ne travaillent plus de nuit, etc. Donc c'est vrai que c'est très très difficile. L'étude en elle-même, de démontrer quelque chose, est très difficile. Et ça a été démontré dans le cancer du sein, peut-être aussi dans le cancer colorectal chez l'homme, c'est pas sûr. Mais peut-être, mais ce sont les cancers les plus fréquents aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un biais aussi. Donc c'est pas. Mais c'est identifié. Hein. Donc oui, il y a des études en cours, mais ça va prendre des années et des années avant que ce soit bien. Et qu'il y ait un retentissement ensuite sur éventuellement une compensation financière, ça va être difficile. Mais déjà, les gens qui travaillent de nuit ou qui travaillent horaire irrégulier, théoriquement. Parfois, on a un salaire. Il y a des primes où le salaire horaire est différent. Il gagne un peu plus. Comment? Où il y a une récupération supplémentaire. Ouais. Autre question?
Merci. Bonsoir. Combien de temps faut-il après le repas? Enfin, non, après le repas, combien de temps faut-il avant de faire la sieste?
Le repas de midi?
Oui.
Vous pouvez le faire aussitôt, il n'y a pas
aussitôt,
de...
Aussitôt,
oui, il n'y a pas de, y a pas de difficulté, soucis. Non. Au moment où vous sentez le sommeil arriver. Ce n'est pas une obligation de faire la sieste. La sieste, on va la faire si c'est un besoin. Donc, si vous ne sentez pas le besoin de sieste, si vous ne manquez pas de sommeil, vous, j'ai bien compris tout à l'heure, vous étiez à la retraite, c'est ça? Non? Pas encore? Oui. Il n'y a pas longtemps, donc vous allez en bénéficier pour régler vos horaires de sommeil. vous coucherez plus régulièrement ou plus tard. Il y a beaucoup de retraités qui se couchent très tard. Il y a deux situations, ceux qui se couchent très tard et ceux qui se couchent plus tôt. Vous allez pouvoir avoir des horaires de sommeil réguliers. Et donc, il n'y a aucune raison ensuite pour vous. Si vous avez un besoin de sieste, vous faites la sieste. Il n'y a pas ce besoin. Donc, il ne faut pas aller au lit pour faire la sieste si on n'en a pas envie. Voilà. Donc, vous mangez tranquillement. Et puis, si vous avez envie de faire la sieste, vous la faites. Et vous la faites courte, en revanche. Pas une sieste longue pour vous, une sieste courte. Parce que normalement, vous avez un temps de sommeil normal la nuit. C'est quand on prend sa retraite que le sommeil s'améliore. Ah si, en moyenne. Hein. À peu près, il y a la plainte de mauvais sommeil dans la population active, c'est plus de 30% de la population. Et même si on va jusqu'à l'insomnie légère, c'est 50% de la population. Et à partir de l'âge de la prise de la retraite, ça tombe à 20%. Alors vous êtes dans les 20% qui restent. Mais la plainte de mauvais sommeil baisse beaucoup après l'âge de la retraite, pendant une dizaine d'années à peu près, 10-15 ans, de 65 à 75 ans à peu près. Puis après, ça reprend. Parce que les gens sont en avance de phase, ils se plaignent du mauvais sommeil, mais c'est parce qu'ils se couchent trop tôt. Et puis il y a aussi autre chose, les douleurs, la nuit, etc. Il y a d'autres paramètres, hein. Il n'y a pas que le comportement. La prostate qui réveille. Attention, si vous urinez, vous parliez tout à l'heure de se lever pour uriner. Il y a les problèmes de la prostate chez l'homme, mais il y a aussi le problème des apnées du sommeil. Ça fait pisser la nuit, 2, 3, 4 fois parfois. Donc c'est un signe qu'il ne faut pas négliger. Chez la femme aussi qui est atteinte d'apnée du sommeil, c'est pareil. Ce n'est pas lié à la prostate. Qui fait la sieste ici régulièrement? Donc on a des siestes là. Des siestes longues ou des siestes courtes? Qui fait des siestes longues régulièrement? Une personne qui fait des siestes flash. Elle est très très courte là. Et les siestes courtes. Voilà. Ah ben ça on a le droit. Hein. Alors si vous êtes en manque de sommeil une nuit par exemple, vous levez, vous avez besoin de raccourcir votre nuit pour une raison X. Vous vous couchez à minuit, vous vous levez à 4 heures. Là, il faut faire une sieste compensatrice dans le jour qui suit. Il n'y a aucune raison de ne pas la faire. Hein, donc, vous avez le droit de faire ça. Tout à fait. On ne peut pas accumuler du sommeil. Ça fait grossir, oui. Non, on ne peut pas dire, parce que je ne vais pas dormir la nuit suivante, je vais dormir 20 heures avant. Non, c'est pas possible. On peut pas. C'est comme l'énergie. On peut pas. Encore, on peut mettre des batteries, mais là, on peut pas mettre du sommeil de côté pour l'avoir ensuite. Ce qu'on peut faire, c'est anticiper. On peut quand même un petit peu anticiper avec la technique que je vous ai indiquée. C'est-à-dire, si vous savez que vous allez travailler une nuit ou que vous allez avoir une période difficile, un éveil long qui va se pour dans une période où normalement vous auriez dormi. Il faut dormir un petit peu avant. Ça permet de passer la nuit plus facilement, à condition de dormir. Parce que se coucher à 20 heures, quand on n'a pas l'habitude de se coucher à 20 heures, on ne dort pas. Hein. L'horloge biologique est réglée pour vous faire dormir à 22 heures, 23 heures, minuit, selon les personnes. Mais malgré tout, se coucher à 20 heures, ça permet de prendre un cycle de sommeil jusqu'à 21h30, 22 heures, puis ensuite partir pour 3 ou 4 heures de conduite et arriver à une destination à 2 heures du matin, disons à peu près frais, quoi. Mais on ne peut pas cumuler du sommeil. Ce serait bien, on ferait 5 ans de sommeil. Et puis... C'est bon ? Ah ben, les somnifères, les hypnotiques. Alors les hypnotiques, l'indication est simple, c'est l'insomnie de courte durée. Hein, donc, c'est-à-dire réactionnelle à un événement ou quelque chose. Vous devenez insomniaque pour une raison X. Et là, vous allez voir votre médecin, je dors plus depuis 3 jours, 4 jours, ça m'énerve, j'y arrive pas. Ça, c'est la bonne indication de l'hypnotique pour une période de 15 jours, 3 semaines maximum, parce que le problème doit être réglé. Au-delà de cette période, le somnifère n'est plus utile. Et donc, normalement, le médecin, maintenant, il y a eu quand même de la formation médicale, doit vous prescrire un hypnotique si vous avez ce besoin, l'occasion d'un deuil, par exemple, ou de quelque chose qui se passe de difficile dans la vie, qui va entraîner un stress particulier. Ou au travail, ou dans la vie familiale. Donc là, on peut donner des hypnotiques pour une période courte, de 15 jours, 3 semaines, 1 mois grand maximum. Et ensuite, on les arrête. Donc, si la somnie persiste, c'est d'autres techniques qu'il faut utiliser. On utilise des techniques qu'on appelle cognitives et comportementales pour essayer de régler le problème. mais une insomnie transitoire qui dure, enfin réactionnelle qui dure, hein, il faut aller voir son médecin justement pour éviter qu'elle devienne chronique.
Justement, je voulais en venir pour l'insomnie, quand c'est transitoire. Je prends juste mon cas, ça fait un mois, je suis en décalé, je me couche à 3 heures du matin. Je reste au lit, j'ai remarqué vers 11 heures, je somnole et je me rendors. Et c'est souvent à 15 heures, donc je suis complètement... Je suis rendue à faire qu'un repas. Donc comment...
Je vous ai donné les clés là, si vous voulez.
Oui, justement, donc ça fait un mois, donc est-ce que ça peut devenir...
Alors un mois, c'est déjà beaucoup.
Bah oui.
Hein, donc là, vous engagez un retard de phase. Donc, c'est-à-dire que vous vous couchez ou vous ne dormez pas avant 3 heures du matin et vous vous levez tard. 9 heures, ça vous fait 9 heures de sommeil, vous vous levez à 11 heures ou midi. Déjà, 9 heures de sommeil, 10 heures de sommeil, c'est... Donc même si vous vous levez à midi, vous mangez, vous refaites la sieste. Donc déjà, vous êtes dans une situation où vous prenez beaucoup de sommeil. Pour voir si il y a un besoin de sommeil ou c'est simplement si vous êtes au lit sans dormir. C'est une autre problématique. Mais si vous dormez... Et que si à 9 heures du matin, vous n'arrivez pas à vous réveiller, eh bien, il faut vous réveiller à 9 heures du matin ou à 8 heures du matin. Comment faire ? Eh bien, le réveil, une personne qui peut venir vous réveiller éventuellement et vous lever, faire de l'exercice physique dès le matin, vous éclairer avec une lampe de luminothérapie pendant une heure le matin, et ça pendant 3 semaines. Et ne pas dormir entre les deux, et vous recoucher le soir. Alors, vous allez vous coucher, si vous êtes décalé à 3 heures du matin, vous allez vous recoucher à 2 heures, la semaine d'après, à 1h30, 1h, et vous allez prendre 3 semaines pour vous recaler. Mais c'est recaler l'horloge, c'est votre horloge qui est décalée. Si c'est ce que je pense de votre cas. Mais c'est pas... Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit...
Surtout que ça m'est jamais arrivé. Quoi, donc...
Oui, mais il faut essayer de comprendre pourquoi, après, c'est un autre problème. Parce que si vous progressivement, l'horloge se décale en une journée. Hein. Il suffit d'une journée pour dérégler votre horloge. Donc c'est pas compliqué. Alors elle se règle aussi très rapidement, en 2-3 jours. Donc parfois on s'en rend pas compte. Hein. Mais vous vous en rendez compte très bien à l'été, enfin l'horaire d'été et l'horaire d'hiver. Une heure, ça vous gêne. Vous dites pas, tiens, ce soir je me couche à 22h et je vais dormir à 22h30 comme hier. Vous vous couchez à 22h mais vous vous endormez à 23h. Ou minuit, parce que vous ne dormez pas, ça vous énerve, en fait, ça retarde votre endormissement. Donc une journée, ça suffit. Donc vous ne pouvez pas jouer avec ça. Et parfois, on ne comprend pas bien, mais si on regarde la télé, l'ordinateur, pendant une semaine, ça décale. Et ensuite, il faut recaler. Et si parce qu'on est en vacances, on va en profiter des vacances pour se coucher tard et se lever tard. Ben une semaine, ça suffit largement à l'horloge pour prendre un autre rythme. Quand vous allez à New York, enfin si vous allez à New York, il y a 6 heures ou 7 heures de décalage, il vous faut une semaine pour vous recaler sur le rythme de là où vous allez. Donc après une semaine, la moyenne de la population hein, du monde entier, hein, c'est pas spécifique à la France, le recalage se fait entre 3 jours et 15 jours à peu près. 3 semaines pour les plus longs. Donc vous voyez. D'abord le sommeil, ensuite le cortisol, la température, etc. Donc cette période-là, eh bien, il faut la refaire dans l'autre sens. Oui.
Moi, je veux tout simplement vous dire que la gestion du sommeil, c'est une affaire de culture psychosomatique. Il y a des lois générales, mais il y a aussi des cas particuliers qu'il faut étudier. De manière tout à fait individuelle et tout à fait, j'ose pas dire séparée, mais enfin tout à fait proche du comportement de chaque personne. Si vous permettez, je vais vous citer mon cas personnel qui précisément est arrivé aujourd'hui, enfin cette nuit. Je me suis couché cette nuit à 1h du matin. Je me réveille à 3h du matin. Je me lève, je me recouche à 3h30. Je me rendors modo jusqu'à 5h30. À 5h30, je ne peux plus dormir. Je me lève à 6h30. À 6h30, donc, je me lève. Je passe ma matinée à travailler. Et puis, je déjeune. Je fais ma sieste de 5 minutes. Et me voilà devant vous maintenant. Donc, en fin de compte, j'ai pas dormi. J'ai dormi moins de 5 heures. Mais j'ai dormi avec, dans la journée, une sieste... un petit peu plus, ça c'est aujourd'hui. d'une dizaine de minutes qui m'a entièrement régénéré. Mais entièrement, enfin, j'étais totalement transformé. Et précisément, toutes ces siestes que je pratique chaque jour, c'est d'une manière strictement régulière, presque obligatoire, me redonne le tonus pour tout le reste de la journée et jusqu'à minuit. Je ne me couche jamais entre minuit et demi et une heure. Donc, c'est dire que les problèmes du sommeil, c'est peut-être d'abord une affaire personnelle.
Ah ben j'en suis convaincu, puis je vous l'ai dit en fait dès le départ, c'est un problème. Chaque personne a une typologie différente pour le sommeil. Vous êtes un petit dormeur, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une quantité importante de sommeil. Vous êtes probablement à 6 heures de sommeil en moyenne la nuit, globalement. Et puis, comme vous dormez peu la nuit, physiologiquement, si vous n'avez pas besoin de plus, vous ne dormez pas dans la journée. Sauf que le besoin physiologique de sommeil de début d'après-midi, il est ressenti très fort pour vous. Et donc, vous dormez une dizaine de minutes, un quart d'heure, et c'est exact. Il se passe, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire ça vous ressource, et ça, c'est magnifique pour vous.
J'ai oublié de dire que je présente d'abord des apnées du sommeil, qui sont récupérées par l'intermédiaire d'une PCC, d'un appareil de l'air, et puis je présente également des troubles de maladies de jambes du sommeil, de jambes sans repos, la maladie d'Egbo. Donc tout ça est réuni en plus.
Ça altère peut-être un peu aussi, mais avec votre machine, vous dormez très bien, mais vous dormez 6 heures, c'est votre quantité dont vous avez besoin. L'altération de la qualité du sommeil parce que vous avez des apnées du sommeil ne modifie pas votre caractéristique en termes de typologie du sommeil. C'est-à-dire que si vous étiez petit dormeur, que vous ayez ou pas des apnées, vous êtes toujours petit dormeur. En revanche, quand vous avez une mauvaise qualité de sommeil, si vous avez des apnées et qu'elles ne sont pas traitées, votre sommeil est de mauvaise qualité, vous aurez envie de dormir dans la journée. Si elles sont traitées, les 6 heures de sommeil sont efficaces et vous n'avez plus envie de dormir dans la journée. Et la simple sieste du début d'après-midi vous suffit, et c'est tant mieux. Très bien, je lui dirai.
Bonsoir, je voulais un petit peu prendre le problème à l'envers. Je trouve un petit peu dommage, mais vous n'êtes pas le seul cas dans cette... C'est d'étudier la face sur le comportement par rapport au monde du travail. Alors vous dites que la période la plus facile pour étudier le sommeil, c'est quand même là où on a le temps de l'observer, donc les vacances, ce qui est quand même relativement court dans la vie d'un homme. Et par extension, du coup, j'en arrive à la phase paradoxale. Et je voulais savoir si vous faisiez des conférences concernant la phase du rêve. Comme il y a beaucoup de connaissances sur cette planète qui pensent qu'on vient du rêve, je pense que le fait de torturer un peu son sommeil et de diminuer cette phase de rêve entraîne effectivement beaucoup de régression ensuite sur les phases physiques. Donc je voulais savoir si vous aviez une étude concernant le paradoxal.
Alors le sommeil paradoxal, c'est le sommeil dit des rêves, parce que quand on a commencé à l'étudier, effectivement, quand on a commencé à étudier le sommeil, en fait, on réveillait les gens. Pour les gens qui s'intéressaient aux rêves, c'était dans les années 50 en particulier, on les réveillait, parce qu'on a découvert le sommeil paradoxal à ce moment-là, chez l'homme. On est réveillé pendant différentes phases de sommeil, en particulier pendant le sommeil paradoxal, et il racontait des rêves. Donc on a dit que c'était le sommeil des rêves. En fait, maintenant, on sait qu'on rêve aussi dans d'autres stades, pas uniquement pendant la phase paradoxale du sommeil. Donc le sommeil paradoxal, ce qu'il y a de particulier, c'est que en fait, tout se passe dans le cerveau comme si vous étiez éveillé pratiquement, alors que vous dormez. C'est un stade différent du sommeil profond récupérateur que je vous ai décrit. Homéostatique, là, celui qui donne cette régulation, ce besoin de sommeil. Ce besoin de sommeil, c'est pour le sommeil profond, en fait, et pas le sommeil paradoxal. Donc, si on s'intéresse au rêve, si on supprime la phase finale du sommeil, si vous vous couchez à 2 heures du matin ou 3 heures du matin, vous faites du sommeil profond d'abord, et si vous vous levez à 6 heures du matin, ce qui disparaît, c'est la deuxième partie de la nuit, et c'est surtout dans cette deuxième partie de la nuit que vous faites du sommeil paradoxal. Et donc, vous faites disparaître une partie de vos rêves, en quelque sorte. Alors, on n'a jamais constaté jusqu'à présent de difficultés particulières, mais on commence parce que, par exemple, les antidépresseurs, les gens qui sont sous antidépresseurs, font très, très peu de sommeil paradoxal. Mais cette phase-là du sommeil, le sommeil paradoxal, intervient probablement beaucoup pour la consolidation mnésique, la mise en mémoire des informations. Donc quand on supprime cette partie-là du sommeil, le sommeil paradoxal est aussi probablement le sommeil léger, cette deuxième partie de nuit. Ça intervient pour la mise en pour stocker vos informations que vous avez apprises ou acquises dans la journée. Vous apprenez quelque chose. Ça a été testé, en fait, cette affaire-là, sur des chauffeurs de taxi ou des gens à qui on apprenait à faire des trajets dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. Alors, les chauffeurs de taxi ont cette particularité qu'ils apprennent très vite les circuits d'une ville. Et les gens qui n'ont pas qui sont pas ce métier-là, il leur faut plus longtemps. Donc, on comparait les deux. Et on voyait que dans les deux cas, il y avait une augmentation du sommeil paradoxal, mais beaucoup moins chez les chauffeurs de taxi parce qu'ils ont l'habitude, en fait, ils mémorisent tout de suite l'information, alors que les autres... mettait plus de temps et il y avait une quantité de sommeil paradoxal probablement plus importante, enfin une quantité plus importante. Ça a été le début des recherches en fait sur le fait que le sommeil paradoxal était important pour la mise en mémoire. Il intervient aussi probablement aussi pour les régulations psychologiques. On sait que chez les gens déprimés, le sommeil paradoxal non traité, les gens déprimés non traités, le sommeil paradoxal a tendance à arriver en grande quantité et tôt dans la nuit. Donc il y a un lien entre dépression et sommeil paradoxal. Et si on les traite, le sommeil paradoxal est supprimé. Maintenant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur les rêves eux-mêmes, le contenu des rêves, mais c'est vrai que pendant le sommeil paradoxal, une espèce de chamboulement de la... Alors, à quoi ça sert les rêves? On pourra faire, mais je crois qu'il y en a eu ici déjà des... Non, sur le rêve, non? Parce que on peut l'aborder sur un plan psychanalytique, sur un plan plus biologique, etc. Mais la suppression de cette deuxième partie de nuit, elle ne va pas jouer sur la récupération physique, un peu, mais aussi beaucoup sur la récupération psychologique, l'irritabilité, difficulté de mémoriser les choses, probablement.
Et je voudrais savoir si les enfants aussi doivent faire des siestes.
Ah, tout à fait. Alors, je n'en ai pas parlé parce que c'est long, alors...
Parce qu'on parle beaucoup des rythmes scolaires.
Ouais, ouais, ouais. Alors, les enfants,
moi, j'espérais qu'on parle de la sieste dans les rythmes scolaires. Je suis enseignant en CM2 ouais, et je me doute que mes élèves ne dorment pas assez.
Ouais, ouais.
Et ça aurait été bien, au lieu de mettre des activités périscolaires, etc., de mettre une activité de sieste.
Bah, au moins un choix, déjà. Un choix pour ceux qui veulent la faire. Les enfants, en fait, à la naissance, il n'y a pas de sieste. Il y a des rythmes, enfin, y a un rythme différent. Hein, donc... Puis le rythme jour-nuit va s'organiser progressivement. Et puis à la maternelle, il y a un besoin de sieste très fort de début d'après-midi, obligatoire. Là, les enfants ont besoin de ce sommeil. Juste avant, c'est matin et soir. Quoi. Même parfois encore en début de maternelle, c'est matin et soir. Donc matin et après-midi, début d'après-midi. Donc on fait dormir les enfants, là c'est obligatoire. Mais malgré tout, à partir de 4 ans, il y a des enfants qui sont réglés, qui n'ont plus besoin d'une sieste obligatoire. Et d'autres qui vont encore avoir besoin de cette sieste obligatoire, mais chaque personne est différente. Puis après, à 6 ans, normalement, le besoin de sieste obligatoire a à peu près disparu. Donc il n'y a pas une nécessité de faire dormir les élèves. Mais en revanche, le baisse de régime, ça c'est vrai pour tout le monde, y compris chez l'adulte. Et il y a des gamins, même à 6 ans, qui ont encore besoin de sieste. Parce que tout le monde ne se règle pas pile poil comme les normes. La moyenne, c'est pas tout le monde n'est pas dans la statistique. Autrement, il y en a qui sont à droite, d'autres à gauche de la courbe. Hein. Et cela, il faudrait pouvoir leur proposer effectivement la possibilité de se reposer un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes. Mais ça, c'est pas prévu dans les programmes. S'il y a des activités de loisirs ou d'activités, créatives, je sais pas, dans le début d'après-midi. Je pense que certains gamins pourraient bénéficier d'un quart d'heure, 20 minutes de repos s'ils le veulent dans une pièce. Et puis ensuite, quand ils ont pris leur repos, aller dans la séance d'animation dédiée. Quoi. Mais ça, c'est des propositions. Moi, je l'ai proposé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Quand on a des réunions comme ça, ce n'est pas tellement envisagé. Hein. Le sommeil, ce n'est pas quelque chose qui est très considéré déjà. Mais moi, je suis persuadé que c'est par là qu'il faut passer. Mais il faudrait certainement pas mettre les activités majeures en début d'après-midi, ça c'est sûr. La deuxième chose pour les enfants, ce qu'il faudrait faire probablement, c'est ne pas les faire embaucher à 8h du matin, enfin aller à l'école à 8h30 du matin, parce que eux, surtout les ados, physiologiquement, ils peuvent pas, ils sont pas prêts. Mais un gamin qui va à l'école à 8h30 ou au collège à 8h30, il se lève à 6h30, quoi. 6h30, ils prennent parfois le, donc, moi j'ai les enquêtes de la région là, hein, je peux le dire, 6h30, 7h pour 8h30. Donc il leur manque 2 heures de sommeil à peu près. Donc ils ont besoin peut-être de cette phase-là à proposer. Mais bon, dans vos, moi je vous incite à le proposer dans les, parce que ça peut être des projets aussi éducatifs dans une école, hein, dans une école. C'est pas forcément au niveau national qu'on peut imposer. Certaines écoles peuvent le faire parce qu'il y a une sensibilité particulière d'un enseignant ou d'un directeur d'école qui va dire bah, moi je préfère que qu'on puisse offrir cette possibilité. Puis après, ça fait un effet tache d'huile et puis boule de neige. Lui, il fait ça, ce serait peut-être bien d'y penser, etc. Et puis, progressivement, de proche en proche, ça se fait. Au bout de 10 ans, tout le monde le fait. C'est parfois plus efficace que d'attendre quelque chose qui vient du haut et qui n'arrive jamais, finalement. Dernière question.
Et je continue sur ma lancée. Comment est-ce qu'ils ont pu observer le fait qu'on puisse rêver sous toutes les phases de sommeil?
Alors, on peut enregistrer très facilement l'activité électrique cérébrale. On place des électrodes, l'électroencéphalogramme, on enregistre l'activité électrique du cerveau, on place des électrodes sur la tête, et l'activité électrique qu'on recueille, c'est en fait l'activité électrique du cerveau lui-même, enfin d'une partie du cerveau. Et donc, si on enregistre pendant toute la nuit, ce qu'on fait dans les centres de sommeil, on place des électrodes et on enregistre toute la nuit, on a donc toute l'activité, même parfois le jour d'ailleurs, on a l'activité électrique cérébrale pendant toute la nuit, pendant que la personne dort. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que les rythmes qu'on enregistre, l'activité électrique qu'on enregistre est différente entre le début et la fin de la nuit. Et ce qu'on observe en même temps, c'est que la personne dort. Donc on fait un lien entre les changements d'activité électrique cérébrale et le sommeil de la personne. Et donc ce qu'on a pu observer, mais maintenant, ces premiers enregistrements datent des années 1930, hein, c'est vieux. Donc avec le temps, les études ont avancé, on a pu différencier des stades de sommeil, parce que l'activité électrique a des caractéristiques différentes. Donc les stades de sommeil qui sont mentionnés, sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal, c'est lié d'une part à cette activité électrique qui est différente. Donc on a vu, tiens, là il y a une activité différente de là, mais pourtant la personne dort. Donc c'est pas le même stade, entre guillemets, c'est pas la même phase, c'est pas la même chose. Et si on stimule la personne, on va la stimuler légèrement, elle se réveille, on va la stimuler plus fort pour la réveiller, sommeil léger, sommeil profond. Et puis là, on la réveille pendant une autre phase qui est différente sur le plan électrique. Et là, elle ne se réveille pas ou elle se réveille, ça dépend. Mais surtout, elle nous raconte des rêves quand on la réveille. Et là, le tracé qu'on enregistre, l'activité électrique, ressemble beaucoup à une activité d'éveil. C'est comme si l'enregistrement, c'était un tracé d'éveil. Donc on a dit, c'est paradoxal, puisque cette personne a un cerveau qui travaille comme à l'éveil, mais elle dort. D'où le terme paradoxal. Voilà, et donc on a pu différencier comme ça les stades de sommeil.
C'est donc pas très compliqué. Les scientifiques se sont pas demandé si cette personne pouvait être éveillée sous un autre plan, sous un autre état de conscience, tout en comme l'explication par exemple de l'enfant qui dort, donc son corps est au repos, et pourtant tous les branchements sur son activité musculaire, eux par contre sont en activité comme s'il était en train de courir, quoi. Et ça, les scientifiques
n'ont pas forcément de réponse. Alors c'est très difficile à faire parce que par exemple une personne qui est allongée qui ne dort pas et qui a un enregistrement d'activité électrique du cerveau qui ressemble à un état d'éveil, le scientifique va dire elle est éveillée. Pourtant, elle a un comportement de quelqu'un qui dort puisqu'elle ne bouge pas. Mais si on parle à cette personne, si on fait des stimulations, tout son comportement, toutes ses réactions végétatives vont se faire comme si elle était éveillée. Donc l'activité électrique cérébrale, les réactions à ce qu'on va lui dire, ce qu'on va lui faire, ce qu'on va la stimuler, etc., les enregistrements qu'on peut faire, on a tout un tas de techniques. Même si la personne ne bouge pas, tout se passe comme si elle était éveillée. Donc, on en déduit que cette personne est réellement éveillée, bien qu'elle ne bouge pas. Donc, on a pensé ça. Par contre, il y a des gens dans les comas. Ça, c'est différent. Ce n'est pas du sommeil, le coma. C'est un état différent. Le cerveau est dans un autre état. Et là, c'est très difficile de savoir si la personne est consciente. Est-ce qu'elle est consciente ou pas de ce qu'on dit autour d'elle, les choses. Mais ça, c'est plus du sommeil, c'est des états différents. Et il y a beaucoup de travaux en ce moment sur les états de conscience minimale, extrêmement intéressants, sur des gens qui sont dans le coma depuis des années et des années, coma végétatif en général, où ils bougent un peu sans bouger. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont des états de conscience et pas d'autres. Mais c'est des techniques extrêmement lourdes pour les mettre en évidence.
Je comprends, vu que ça touche à l'invisible, forcément, c'est pas palpable forcément de manière technique, quoi. Mmh. comme tous les rapports de compte rendu d'expérience que peuvent ramener les personnes qui sont endormies. Et du coup, les personnes qui endorment, je ne sais pas, les spécialistes pour les opérations, ceux qui endorment.
Bah, l'hypnose.
Voilà. Non, pas du tout l'hypnose. L'hypnose, ça rend plutôt hypovigile, alors qu'il faudrait plutôt développer le côté hypervigile. Mais c'est, tous les anesthésistes, en fait, se retrouvent avec des millions d'exemplaires de compte rendu d'expérience, où les gens, pendant qu'ils sont opérés, se retrouvent ensuite à l'état d'éveil, après leur réveil, à ramener des informations pendant le temps de l'opération.
Oui, oui, voilà. Oui, mais ça, ils sont anesthésiés. Ça rejoint un petit peu le... Voilà. On n'est plus dans le cadre du sommeil physiologique.
Mais bon, on sort effectivement. Voilà, excusez-moi.
Merci. Voilà, c'est bon. Bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, bonne sieste.